ensemble et bienvenue dans La Boîte à Clés, le podcast qui a pour ambition de vous aider à révéler votre potentiel et à vous faire passer à l'action. Je suis Catherine Baudouin et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis coach en développement personnel et professionnel et mon objectif est d'aborder ici des sujets très variés afin que chacun y trouve ce dont il a besoin. Pour cela, je donne la parole à des personnes qui ont des histoires de vie inspirantes à nous raconter et qui nous expliquent en première partie d'épisode leur parcours, leur état d'esprit, leur réussite, leurs enseignements. Et enfin, dans une deuxième partie, je partage avec vous des outils et astuces pratiques en lien avec le thème de l'interview pour que vous puissiez mettre en application les choses dont vous avez besoin dans vos propres vies. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de vous abonner sur votre plateforme préférée, de le partager autour de vous et de lui mettre une note 5 étoiles ou un avis. Et vous pouvez également me faire vos commentaires et vos feedbacks. Pour l'épisode du jour, je tiens tout de suite à vous le préciser, c'est l'épisode le plus long que je ne vous ai jamais proposé depuis l'existence de ce podcast. Et pour cause, cette expérience est tellement intéressante que je me devais de vous la partager en entière. Je suis allée à la rencontre d'Angélique Garnier, une jeune femme dynamique et enthousiaste, chef d'entreprise et mère de famille. Et elle nous raconte dans cette interview son parcours au travers de la maladie de Lyme et de son jeûne thérapeutique. Je vous laisse donc en compagnie d'Angélique Garnier et vous retrouve en solo juste après cette interview. Bonjour Angélique.
Bonjour Catherine.
Merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invitée sur le podcast. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi.
Eh bien, merci de m'avoir proposé.
Bon, est-ce que pour commencer, tu veux bien commencer par te présenter et nous dire vraiment rapidement qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Tu nous racontes ce que tu as envie de nous raconter en réalité.
Eh bien, donc je m'appelle Angélique, j'ai 37 ans passés.
Il faut commencer à réfléchir.
C'est ça. Je me suis arrêtée à 25.
Dans ta tête.
Dans ma tête. Donc, 37 ans passés, je suis maman de deux petits garçons qui ont 6 et 10 ans. Mm-hmm. J'ai créé une entreprise il y a maintenant plus de 5 ans, où je fais du recouvrement, du suivi de factures et de la gestion d'impayés. Mm-hmm. En parallèle, je suis aussi praticienne Feng Shui.
D'accord.
Depuis peu, depuis un an et des bananes.
Mm-hmm.
Et
tout ça, ça fait une vie bien remplie.
Ça fait une vie bien remplie, exactement.
Ok. Je crois savoir qu'il y a quoi, un an et demi, deux ans, ta vie a un peu basculé, il me semble. C'était ça, il y a un an et demi, deux ans ?
Un an et demi, oui.
Un an et demi. Tu as commencé à avoir des douleurs physiques, il me semble. Ça a commencé par ça, par de la fatigue.
Ouais, douleurs articulaires.
Articulaires, ok.
Grosse fatigue, baisse d'énergie générale.
Mm-hmm. Et là, tu es rentrée dans un vrai parcours du combattant pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai.
C'est ça.
C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu par quoi tu es passée dans tout ce parcours du combattant ?
Oui, donc en fait, en février 2018, j'ai commencé à développer des douleurs au niveau des genoux. Donc, je faisais du sport en piscine, un truc de fille. Hein, et vraiment des douleurs au mouvement dans les genoux et dans les hanches.
D'accord.
Donc, je suis allée voir le médecin qui m'a prescrit des radios, IRM, voilà. Et en fait, on avait une suspicion de polyarthrite,
mm-hmm.
puisque ça commençait à s'étaler aussi au niveau des épaules, sauf que tout ce qui était radiographie montrait rien du tout. A priori, il y a certaines polyarthrites qu'on détecte 3 ans après le début des symptômes, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais moi, on ne trouvait rien. Et c'était quand même très handicapant, j'avais de plus en plus de mal à me mouvoir, c'était vraiment douloureux à chaque fois que je bougeais les genoux ou que je montais un escalier, par exemple.
Ouais, alors c'est ça, concrètement, au quotidien, ça représentait quoi ? Même monter des escaliers, ça devenait compliqué ?
Ouais. Alors au début, c'était vraiment monter les escaliers, c'était compliqué parce que c'était douloureux. Mais bon, on se dit, ça va passer, c'est bizarre. Ouais. Voilà, on est parti au ski en mars, je crois, 2018. Et quand on est rentré du ski, donc moi, je fais pas de ski, hein, je m'occupe d'aller chercher les enfants au cours, mm-hmm. je lis, je fais des promenades. Et c'est la première année où j'ai pas fait de raquettes, je suis pas allée me promener toute seule parce que j'étais vraiment un manque d'énergie générale.
D'accord, fatiguée. Donc,
très fatiguée.
D'accord.
On est rentré du ski et j'ai eu l'impression de pas avoir eu de vacances, de pas m'être reposée, donc j'étais un peu irritable, pas terrible. Et 10 jours après, cours battu, comme si j'avais une grippe. Une grosse grippe, puis c'est vrai que comme on revenait de vacances, mon mari avait eu la grippe, je me suis dit, bah tiens, moi aussi.
Pourquoi pas ?
Sauf qu'en fait, c'est une grippe qui s'est transformée en « je peux plus bouger ». Mais je peux plus bouger, vraiment, les genoux, les hanches, j'avais l'impression d'être rouillée, d'où finalement les rendez-vous chez le médecin. Alors au début, on n'y va pas, on se dit « ça va passer ». Jusqu'au jour où mon mari m'a vu monter les escaliers comme une grand-mère de 80 ans et m'a dit, c'est pas possible, il faut absolument que tu ailles consulter quelqu'un. Mm-hmm. C'est pas normal que tu sois dans cet état-là.
Mm-hmm. C'est pas juste une grippe, quoi.
Ouais, c'est pas juste une grippe. Sauf que le médecin me fait passer des examens, me met quand même sous anti-inflammatoire parce qu'il a bien vu que j'étais pas bien, parce que j'ai quand même passé plusieurs jours à pas pouvoir bouger, c'est-à-dire j'avais du mal à sortir du lit, je dormais pas la nuit parce que dès que je bougeais, je faisais un mouvement, j'avais des douleurs atroces dans les membres. Donc c'est passé des genoux aux hanches, aux épaules, aux poignets. Le plus difficile, ça a été les mains, puisqu'en fait, de ne pas pouvoir écrire avec un stylo, de ne pas pouvoir tenir un stylo, là, on se dit, il y a quand même...
Ouais, là, ça devient même très handicapant, finalement, pour tout faire, pour t'habiller, pour manger, pour tout.
Mettre
finalement.
Un bouton, couper de la viande, aider les enfants à se préparer. Mmh. C'était vraiment compliqué. Et sauf qu'en parallèle, j'avais des résultats d'analyse, que ce soit d'analyse radiographique ou de
prise de sang.
Ou de prise de sang qui était normale.
Qui ne donnait rien. Mm-hmm.
Donc en fait, les médecins me disent, vous allez bien en fait, madame.
Mm-hmm.
Bien
sûr.
Oui, je vais bien, sauf que j'ai pas d'énergie, j'ai des douleurs horribles et j'arrive pas à monter des escaliers. C'est quand même, ni monter ni les descendre d'ailleurs. Mm-hmm. Donc ça a duré quand même plus de 6 mois. Et puis, à force d'en discuter, de rencontrer des gens qui me connaissaient, qui disaient, dis donc, t'as l'air fatiguée, ça va pas bien. J'ai eu la chance de tomber sur une naturopathe qui, elle, fait du bol d'air jaquier. Mm-hmm. Donc, le bol d'air jaquier, c'est en gros comme si on allait prendre un bain de forêt. On nous oxygène avec de l'essence de térébenthine, du pin des Landes. Mm-hmm. Et elle me disait, parce que j'avais déjà échangé avec des gens qui me disaient, si ça se trouve, tu as Lyme.
Oui.
Sauf que la maladie de Lyme, dans les prises de sang que j'avais faites, elle n'était pas là. Mm-hmm. Donc, j'en passe, mais on est passé par « vous êtes fibromyalgique », donc la fibromyalgie, en gros, c'est pour moi la maladie poubelle où quand on ne sait pas ce qu'on a, on met l'un dedans et puis il n'y a pas grand-chose qui vous soigne.
On ne peut pas faire grand-chose, donc il faut accepter et puis voilà.
C'est ça. La polyarthrite, on l'avait zappé. L'IRM des doigts montrait quand même que j'avais de l'eau dans les petites articulations. Et ça ne collait pas avec la fibromyalgie. Et le traitement par anti-inflammatoire qui me faisait du bien ne collait pas non plus avec la fibromyalgie. Donc, on a fini par retirer la fibromyalgie. Mm-hmm. On a cherché des maladies neurologiques, sclérose en plaques, Parkinson, enfin, mm-hmm. tout ce qui pouvait être compliqué. On n'a pas
trouvé. Vous y êtes allé par déduction, en fait, finalement.
C'est ça.
Est-ce que tu es passé aussi par la case dépression ? Parce que, du coup, on y reviendra parce que précisément, on va parler de la maladie de Lyme, mais pour m'être documenté du coup, sur le sujet dernièrement. J'ai cru comprendre qu'en fait très souvent on associait ça à une pathologie dépressive qu'il y a pas mal de personnes atteintes de la maladie de Lyme qui finalement ont été internées en psychiatrie parce que mal diagnostiquées en fait finalement.
Ouais. Quand j'ai commencé à avoir mes douleurs au mois de mars et que les radiographies sont revenues négatives et que la fibromyalgie a été écartée, on m'a dit clairement on va peut-être vous mettre sous antidépresseur, vous irez mieux. Mm-hmm. Sauf que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est d'accord avec ça. Mm. Et puis, je pense que je me connais un minimum et j'ai dit non.
Tu as bien compris que là, ce n'était pas ça le fond du problème, c'était vraiment physique.
Alors, on me dit oui, mais c'est peut-être une petite déprime passagère. Mais sauf que je n'avais pas de déprime passagère. Enfin, j'aime mon boulot. En plus, je suis à mon compte, donc je m'organise comme je veux. J'ai ma vie de famille, on a tous une vie de famille avec des hauts, des bas, mais tout allait bien, entre guillemets, dans ma vie, et j'avais pas de raison d'être en dépression. Mmh. Et en plus, je refusais ce diagnostic-là. Donc, dès l'instant où les douleurs s'atténuaient, dès que j'étais sous anti-inflammatoire, pour moi, il n'y avait pas lieu de parler de dépression.
D'accord.
Donc, je me suis un peu fâchée quand même. Alors, mon médecin traitant qui me connaît bien, il a accepté ce que je lui disais, sauf que le rhumato que j'ai vu, lui, il m'avait jamais vu. Donc quand il a éliminé la polyarthrite et la fibromyalgie, lui clairement il me dit moi je peux rien faire pour vous, mais je pense que les antidépresseurs ça va vous faire du bien.
D'accord.
Donc ça j'ai refusé. Et en fait quand on arrive là, quid quoi, qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce qu'on fait ?
C'est ça.
Et alors qu'est-ce que tu as fait ?
Eh bien en fait j'ai eu la chance, par le réseau aussi professionnel et amical, donc de tomber sur cette fameuse naturopathe.
Voilà.
J'ai fait du bol d'air jaquier pendant tout le mois de juillet 2018. Donc, en fait, c'est assez rigolo parce que ça commence par des bols de 3 minutes sur une période de 21 jours et on finit à 15 minutes. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que j'en profitais. Alors, je m'étais mise aussi à faire donc, je faisais des assouplissements, de la méditation. Donc, ça m'a permis quand même d'aller vers la méditation parce que pour arriver à appréhender ces douleurs, les difficultés au quotidien, parce que il y a aussi, c'est pernicieux parce que les médecins disent « vous êtes dépressif, donc c'est pour ça que vous avez des douleurs ». Et en fait, moi, je disais, bah non, aujourd'hui, je suis déprimée parce que j'en ai marre d'avoir des douleurs.
Parce
de
que
pas
j'ai
dormir.
Des douleurs et que je peux rien faire. Et que...
Exactement. Ouais, okay. Donc, c'était un peu, enfin, on avait des discours un peu contradictoires.
C'est un peu le chat qui se mord la queue. Hein.
C'est ça. Et donc, la méditation m'a fait du bien, ça m'a permis de relativiser quand même pas mal. Et en fait, pendant les séances de bol d'air en juillet l'année dernière, c'était vraiment des moments où je pouvais méditer, où j'arrivais à me poser. Et en fait, je ressortais souvent avec une énergie assez, assez nouvelle, enfin, en tout cas par rapport à la maladie, par rapport à ces 6 mois de recherche. Et on s'est retrouvés, donc j'ai passé un été plutôt bien, avec les douleurs étaient toujours présentes, mais plutôt moins de difficultés
mieux
à monter.
Mieux que ce que tu avais connu, en tout cas. D'accord.
En fait, j'avais l'impression que la grosse crise était passée. Et puis, donc, de fil en aiguille, une fois dans une réunion, il y a quelqu'un qui me dit, mais tu sais, moi, je connais quelqu'un qui est très atteint. Elle a à peu près les mêmes symptômes que toi. Et en fait, elle a été diagnostiquée maladie de Lyme. Sauf que moi, très cartésienne, très pragmatique, je dis, bah oui, mais moi, j'ai pas ça. Puisque mes examens sanguins sont clean.
D'accord.
Donc, je peux pas avoir la maladie de Lyme. Et puis, malgré tout, ça fait quand même un peu son chemin. Je me suis un peu documentée. Et puis, cette personne-là m'avait dit, écoute, il y a un médecin sur Tours qui a été radié de l'ordre des médecins parce qu'il allait contre les protocoles de la Sécurité sociale. Oui. Mais il y a quelqu'un d'autre du côté de Compiègne qui reçoit des personnes. Ça coûte rien d'aller le voir, de prendre rendez-vous. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas à voir. Et en fait, j'ai pris rendez-vous, sauf que j'ai eu rendez-vous avec cette personne-là. Donc, moi, j'avais pris rendez-vous, je crois, en mars, et j'ai dû le voir pour la première fois en septembre.
D'accord.
Donc, il se passe quand même...
Donc, pendant ce temps-là, tu...
Donc, j'avais fait le bol d'air en septembre, en octobre, je crois. J'ai plus les dates en tête, mais en gros, il s'est passé au moins 4 mois.
Ouais, ça faisait déjà... Donc là, c'est la même année. Tu nous disais tout à l'heure, tu as commencé à avoir des douleurs en février.
C'est ça.
Et tu l'as rencontré septembre-octobre. Septembre-octobre. Donc, il s'est déjà quand même passé presque une année, finalement, où tu as souffert et tu as cherché quand même à comprendre ce qui se passait.
C'est ça.
OK.
En refusant ce qu'on me collait sur le dos. et donc, je vois cette personne-là, enfin, ce médecin qui me pose tout un tas de questions, qui me fait faire toute une batterie d'examens, parce que des examens, j'en avais quand même encore, tout ce qui était prise de sang, parce que malgré tout, mon médecin traitant ne voulait pas s'arrêter à...
On ne sait pas.
On ne sait pas. Et puis, puis moi-même, j'avais envie quand même de... C'est quand même plus facile de traiter ou de gérer quelque chose qu'on connaît, plutôt que de rester dans l'inconnu et de finir par se dire, finalement, ils ont peut-être raison, c'est moi qui suis folle, quoi.
Bien sûr.
Et puis c'était pénalisant parce que j'arrêtais en gros à 3h de l'après-midi, j'avais plus du tout d'énergie. Je pouvais plus travailler, je pouvais plus m'occuper.
Parce que fatiguée
épuisée, vraiment épuisée. Donc déjà
plus
sortir
d'énergie.
Du lit le matin, c'était compliqué, mais c'était pas compliqué dans le sens quand si j'étais dépressive, j'aurais eu du mal à sortir de mon lit. C'était vraiment physiquement.
D'accord.
Physiquement, j'avais du mal à poser les pieds par terre, j'avais du mal à me dérouiller, entre guillemets, et à lancer la machine, quoi.
T'avais l'envie de sortir du lit, mais c'était le corps qui suivait pas.
Exactement.
Alors que dans la dépression, en règle générale, tu n'as même pas l'envie de sortir de ton lit.
C'est ça. Et plusieurs fois, j'ai dit, d'ailleurs, j'emploie beaucoup ce terme-là, je voudrais changer de véhicule. Parce que je vois mon corps comme un véhicule.
Ouais, d'accord.
Et là, je disais, mais il marche plus, donc ce serait bien que je change de véhicule, parce que...
Ouais. Ok. Et donc, ce médecin donc, à Compiègne.
Donc, ce médecin à Compiègne me fait passer des tests. Je le revois sur la fin d'année, donc au mois de novembre. Donc, entre deux, je suis de nouveau sous anti-inflammatoire au mois d'octobre. Je le revois en novembre, où là, il me dit, les tests ne sont pas concluants, encore une fois. Vous avez un profil relativement atypique. Il y a des choses qui pourraient correspondre à Lyme, mais il y en a d'autres qui ne correspondent pas. Donc, on va faire quelque chose. Je vous mets quand même 3 semaines sous antibiotiques.
D'accord, parce que ça c'est le traitement de base pour la maladie de Lyme, c'est un traitement antibiotique de quelques semaines.
Parce que la maladie de Lyme étant une bactérie.
C'est ça. Justement, tu peux nous l'expliquer en quelques mots pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi exactement cette maladie de Lyme ?
Donc la maladie...
De manière très simple.
Ouais, c'est une maladie qui est véhiculée par les tiques. Donc quand la tique, elle mord,
elle pique.
Elle mord, en fait, elle s'accroche. elle va nous injecter de la bave, enfin clairement c'est ça, et dans cette bave bah il y a ce qu'on appelle, enfin il y a un bouillon de culture, et dans ce bouillon de culture il peut y avoir plein de choses, et notamment la maladie de Lyme
qui est une sous forme de bactérie en fait.
Et alors en France on a tendance à dire il faut faire attention à ce qu'on appelle un érythème migrant. Donc l'érythème migrant c'est vraiment à l'endroit où la tique elle était positionnée, donc qu'on la voit ou qu'on la voit pas, hein, ça peut être dans le cuir chevelu donc on le voit jamais. Ça fait comme une piqûre de moustique, mais ça finit par s'étaler. Ça gratte pas forcément, et ça peut s'étaler, donc ce qu'on appelle l'érythème migrant, jusqu'à devenir quelque chose de large en termes de diamètre, de plusieurs dizaines de centimètres parfois.
Ça fait un gros cercle rouge, hein, c'est
ouais,
ça.
Ouais, rouge. Alors ça peut aller du rose pâle au rouge foncé. Ouais. Ça dépend vraiment des organismes.
Sauf c'est pas forcément tout de suite.
Alors c'est
ça
pas toujours tout de suite.
Ça peut être 10 jours
après, souvent,
après
la piqûre. Et parfois. Donc, dans un tiers des cas, quand même, et ça, on a du mal à le trouver, il n'y en a pas. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des médecins, voire même 90% des médecins, estiment que s'il n'y a pas eu d'érythème migrant, c'est impossible qu'on ait la maladie de Lyme.
D'accord.
Donc, parfois, on ne fait même pas les recherches sanguines. Et donc, moi, a priori, le médecin me dit, je pense que vous avez ça, mais je pense, on va le confirmer par des antibiotiques, parce que les antibiotiques vont permettre de faire sortir, finalement, la maladie. Parce qu'elle, la bactérie, en fait, quand elle est là depuis longtemps, et a priori c'était mon cas, quand elle est là depuis longtemps, elle va se cacher dans ce qu'on appelle des microfilms à l'intérieur du sang. Mmh. Ce qui fait que quand on fait les examens sanguins, on la voit pas.
D'accord, parce que c'est trop petit.
En gros, elle se cache, quoi.
D'accord.
Elle joue à cache-cache et elle va se positionner partout. Donc elle peut se positionner au niveau du cerveau, elle peut se positionner au niveau du cœur, elle peut se positionner sur les articulations. Mmh. Et même si on
elle
fait
peut
les
vraiment
ponctions,
toucher tous les organes, en fait, toutes les cellules.
Oui. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, en tout cas dans le cadre de la maladie chronique, un jour elle sort, enfin, elle fait des dégâts, elle fait du mal, mais on ne sait pas, on n'a pas suffisamment de recul et il n'y a pas assez de recherche encore sur la maladie de Lyme pour savoir à quel moment elle fait du dégât et comment ça s'organise, en fait.
Ça peut aussi peut-être être un moment où ton organisme, il n'arrive plus à se défendre, si ça fait très longtemps que tu l'as en toi. Peut-être que jusque-là, ton organisme a réussi finalement à se défendre. Et puis, il arrive un moment où il se défend plus ou moins bien.
A priori, ça peut aussi être dû à un choc. Donc, il se peut que ce soit un choc qui ait provoqué le fait que la maladie sorte. En fait, on peut être porteur, c'est un peu comme le VIH.
Comme souvent le cancer aussi. Hein. Ce qu'on dit, c'est que sur le cancer, il y a des formes de cancer qu'on
génétique.
A en nous. Oui, tout à fait. Et qui se déclarent au moment d'un choc souvent émotionnel, d'ailleurs.
Oui, ou la sclérose en plaques.
Ouais,
voilà. Et du coup, a priori, chez moi, ce serait ça, en fait.
D'accord.
Ce serait une maladie de Lyme que j'aurais contractée quand j'étais enfant.
Donc, tu n'as pas souvenir d'avoir peut-être fait le...
J'ai souvenir d'avoir eu des tiques. Enfin, on avait des animaux à la maison. Enfin, moi, je faisais des galipettes dans l'herbe avec
la nature,
mes copines.
Enfin, comme tous les enfants,
voilà,
de toute façon.
On allait se promener en forêt. Ma maman, elle nous retirait des tiques à la pince à épiler, à l'éther, quoi. Donc, oui, j'ai eu des piqûres. Maintenant, est-ce que j'ai eu des érythèmes migrants
T'as pas de souvenir de ça.
Non, j'ai pas de souvenir de ça.
Donc là, le médecin te dit, a priori, peut-être que oui, mais peut-être que non.
Donc et pour s'assurer, on va vous mettre sous antibiotiques.
Et on verra.
Il me dit, on voit ce qui se passe.
D'accord.
Donc il m'avait donné une feuille de suivi avec 5 symptômes les plus probants à noter et à évaluer au fur et à mesure du traitement.
D'accord.
Donc les 5 symptômes, enfin moi, il y avait les douleurs dans les genoux qui étaient quand même très fortes, les douleurs dans les mains, les douleurs dans les hanches, les palpitations.
D'accord.
Et le sommeil, parce que j'avais des palpitations, mais vraiment j'avais l'impression d'avoir des problèmes cardiaques. Et en fait, avec le recul, il y a 15 ans, j'avais fait un bilan cardiaque parce que j'avais des points au cœur. Mm-hmm. Sauf qu'en fait, on a trouvé ni souffle, et bien évidemment, le mal du siècle, on avait mis ça sous le coup du stress.
Le stress.
Mais vous êtes trop stressée, madame.
D'accord.
De la même
façon. Ce que tu avais accepté à l'époque ?
Bah oui, c'était le début, le début de ma carrière professionnelle, je pense que... Puis j'ai toujours été quelqu'un d'assez impliqué et de stressé en général, donc je m'étais dit c'est tout. Sauf qu'avec le recul, en fait, il s'avère que tout ça, c'était des symptômes qui étaient déjà liés, sûrement.
Okay.
De même que les problèmes intestinaux, parce que, en fait, ma maman a une maladie de Crohn, ma grand-mère maternelle avait une maladie de Crohn, et moi, j'ai des soucis intestinaux depuis longtemps. Mmh. Donc, tous les 2 ans, coloscopie. J'ai vu plusieurs gastro-entérologues qui m'ont toujours dit « Mais madame, vous n'avez pas de maladie de Crohn pour l'instant, mais vous êtes trop stressée. » Le stress générateur de tous les maux qu'on peut avoir.
Bien sûr.
Voilà, donc...
Donc, qu'est-ce que donne le traitement antibiotique à ce moment-là ?
Antibiotiques 3 semaines sur le mois de décembre.
Donc, avec le suivi, comme tu disais, avec les principaux symptômes.
Donc, là, grosse remontée des douleurs. Enfin, vraiment, sur une échelle de 0 à 8, j'ai été rebasculée parce que, avec les anti-inflammatoires, enfin, tout ce que j'avais fait, sur une échelle de 0 à 10, j'étais quand même passée de 8 à 6 par moment. Donc, 6, c'est quand même... on a du mal, quoi. Il y a vraiment 3 minutes de recul... Enfin, de pause avant de pouvoir gravir un escalier, même qui fait 3 marches, hein, c'était pas... ou de le descendre, hein, c'est... Pouf, va falloir que je monte, quoi.
Tu optimises tes déplacements, en tout cas, tes allers-retours.
Mais ça paraît fou, dit comme ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce moment de latence à se dire, oula, va falloir que je monte.
D'accord.
Alors que, pendant le traitement, donc là, grosse remontée, douleur à 8, palpitations beaucoup, donc là, j'ai appelé le médecin, je lui ai dit, c'est pas possible, je suis mal, quoi, enfin, est-ce que j'arrête le traitement ? Et en fait, le secrétaire me dit, non, vous continuez, c'est normal, puisque, en fait, on fait sortir le mal, quelque part, si on peut employer ce mot-là, pour pouvoir l'anéantir par la suite.
D'accord, pour pouvoir le confirmer et l'anéantir.
Et puis en fait, au fur et à mesure des 3 semaines de traitement, donc moi, au bout de 10 jours, j'étais très mal, mais à la fin des 3 semaines, j'étais bien. J'étais descendue en douleur à 2 sur 10. Okay. Donc 2 sur 10, c'est waouh, quoi. C'est enfin, je suis normale, enfin, je suis de nouveau moi-même, ou presque de nouveau moi-même. Sauf qu'il y a quand même ce petit truc où les douleurs dans les doigts sont toujours un peu là, donc je... Voilà, je me disais, déjà, si je reste à 2 sur 10, c'est parfait. Sauf qu'en fait, une fois que le traitement est terminé, 15 jours après, je pense qu'une fois que le corps a tout éliminé, eh ben, de nouveau, on est sur une pente ascendante au niveau des douleurs et au niveau de des problèmes physiques. Donc là, j'avais de nouveau rendez-vous chez le médecin fin janvier, début février.
Pour faire le point après traitement.
Ouais, okay. C'est ça. Donc là, il me dit, bon, bah, pour moi, il n'y a pas de doute. En plus, il m'avait refait faire une batterie d'examens sanguins. Où là, enfin, je pense qu'on a cherché toutes les difficultés possibles. Ah oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que aujourd'hui, sur la recherche de Lyme chez l'humain, on est moins bon que chez les animaux. Par exemple, dans les centres équestres, les vétérinaires sont capables de détecter beaucoup plus facilement la maladie de Lyme, qui génère notamment sur des chevaux de course. Enfin, moi, je ne suis pas très, très au fait de tout ça, mais sur les chevaux de course, dès qu'ils ont des problèmes articulaires, qu'on sent qu'ils ont une baisse d'énergie, etc., 9 cas sur 10, c'est la maladie de Lyme.
D'accord.
Et donc, eux, ils ont une détection qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que chez l'humain. Et ils sont traités sans problème.
D'accord.
Et à l'époque,
et ça, on n'a pas réussi à transposer.
À l'époque, on m'avait dit, si tu connais un vétérinaire qui a un labo chez lui, à la limite, fais-le. Ça ne t'aidera pas à avoir un traitement, mais ça t'aidera à dire, oui, c'est bien ça que j'ai. Quoi. Donc bon, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché quand même, mais je n'ai pas trouvé. Et donc, en février, il me dit... voilà, tous les examens que vous avez fait depuis le mois de décembre, il y en a un qui est revenu, qui s'appelle la Bartonella. Et la Bartonella, ça fait partie du bouillon de culture que la tique, elle transmet.
D'accord.
Donc il dit, effectivement, le Lyme, il est toujours négatif, sauf que, moi je suis sûre que c'est ça que vous avez, la preuve, c'est qu'avec l'antibiotique, vous alliez mieux.
Ça a marché.
Que là, on remonte, mais quelque part, c'est normal, parce que je vous ai pas donné un traitement complet.
De cheval, d'ailleurs.
De cheval, oui. C'est ça. Et donc il me dit, bah là on va refaire quelque chose. Et il me dit, par contre, alors moi je lui dis, bah oui, mais bon, quand même, donc un peu têtu, hein. Je lui dis, mais quand même, de nouveau, les examens pour Lyme, ils sont négatifs. Et en fait, il m'explique, donc il y a un médecin dont j'ai acheté le livre depuis qui s'appelle Christian Perron, qui est le professeur Perron. Le professeur Perron explique que, effectivement, la plupart des tests sanguins sont négatifs. Sauf que si je l'envoie dans le sud de la France, par exemple, ou en Allemagne, ou peut-être qu'il reviendra positif pour le même test et le même échantillon sanguin. Parce qu'en fait, on a un truc en France, alors j'espère que je ne vais pas me faire détruire par la sécurité sociale, ou par les gens qui sont pro-médecins, mais on a un pourcentage en fonction des régions de malades de Lyme maximum. C'est-à-dire que nous, en Champagne-Ardenne, donc ça date de 1900 et des bananes, hein. Nous, en Champagne-Ardenne, on est déjà arrivé au quota de 5% de malades de Lyme. Donc, si j'attrape la maladie de Lyme, eh ben, en fait, je serais testée négatif.
Parce qu'il ne faut pas dépasser ce quota-là.
Il ne faut pas dépasser ce quota-là,
et
c'est pas
ce
possible.
Et ce quota-là, il vient de où ? Il est fixé comment ?
Alors, je ne saurais pas retranscrire le livre du professeur Perron.
D'accord,
mais ça a été fixé par des hautes instances. Ça a été aussi à la fois européen et mondial. Hein. C'est
d'accord.
La même chose aux États-Unis. Sauf que nous, on a décidé à un moment qu'on ne dépenserait pas d'argent dans la recherche contre Lyme. Que Lyme, c'était beaucoup dans la tête et que c'était souvent les gens dépressifs qui avaient l'impression d'avoir cette maladie. Et aujourd'hui, malgré la recrudescence des tiques en forêt, des gens qui ont des problèmes, etc., les autorités ont tendance à fermer les yeux là-dessus.
Ouais.
Et c'est plus
on
pratique.
On sait, de toute façon, c'est un fléau, cette maladie-là. Il y a des gens qui disent que elle est sous-diagnostiquée, il y en a qui disent qu'elle est sur-diagnostiquée. Enfin voilà, c'est vraiment un sujet tabou.
10 médecins, 10 discours différents, et personne s'entend en fait. Moi, j'ai quand même relativement confiance. Enfin, le professeur Perron, c'est quand même quelqu'un qui était établi et qui avait une vraie autorité naturelle, qui avait eu des cas importants avant de se dire allez, je me lance dans Lyme, qui est quand même un sujet épineux. Je vais me faire démonter par toutes les autorités sanitaires possibles. Donc, il fait des conférences, il a écrit des livres, il forme des médecins. Mais sur 100 médecins, il y en a à peine 10 qui vont lui donner du crédit. Donc, c'est vrai qu'on est, encore dans quelque chose où on a tendance à fermer les yeux.
C'est presque
dire,
encore parfois un peu tabou, même, ce sujet-là.
Oui, parce que finalement, ça se soigne bien si c'est pris à temps et si on fait les choses comme il faut. Alors moi, je ne sais pas comment le système médical fonctionne, mais ce que je sais, c'est que quand on voit IRM, scintigraphie, radiographie, prise de sang à gogo, anti-inflammatoire, antidépresseur, rendez-vous au centre antidouleur, enfin tout ça, ça coûte énormément.
Bien sûr.
À la sécurité sociale, aux mutuelles, alors qu'il aurait peut-être fallu juste d'un test peut-être plus précis et puis de 1 mois, 2 mois, 3 mois d'antibiotiques pour que ça se résolve.
Alors du coup, là, le médecin en question qui te dit le test est revenu négatif, mais moi, je pense quand même que c'est ça. Là, qu'est-ce que vous décidez de faire ?
Donc là, il me redonne 2 mois d'antibiotiques, alors pas les mêmes. Donc là, j'ai 3 antibiotiques. J'ai de nouveau ma feuille de suivi à mettre en place. Alors, bien sûr, tout ça avec des probiotiques parce que ça a quand même tendance à détruire la flore intestinale. Et moi, qui avais déjà des soucis intestinaux, le but, c'était d'éviter quand même d'être trop, trop malade. Donc, il me redonne 2 mois d'antibiotiques. Donc, je fais mars-avril d'antibiotiques. Et là, de nouveau, je me retrouve à 2.
D'accord.
Donc, super contente. Je me dis, waouh.
Génial.
En fait, c'est merveilleux, les antibiotiques. Moi qui prends même pas un doliprane quand j'ai mal à la tête, d'un coup, j'ai trouvé que les antibiotiques, c'était merveilleux. Et donc, je le revois. Donc là, mon traitement s'est remis en avril. Je le revois courant mai, mi-mai à peu près. Et quand je retourne le voir, il me dit « Alors, comment vous allez ?» Donc, je lui explique que je vais pas trop mal, mais que je sens que de nouveau, ça remonte. Et je lui dis « En fait, ça m'épuise, quoi. Enfin, je vais quand même pas passer ma vie sous antibio, en sachant que dans la salle d'attente, j'étais avec des gens qui étaient sous traitement, des fois, depuis 3 ans. Il y avait un kiné qui avait arrêté son activité 6 ans avant, parce que lui, il était plus capable du tout. Il dit « Je dois enchaîner les médecins, enfin, les consultations tous les quarts d'heure. » Il dit là, quand je fais une personne, j'en ai pour la journée, je suis épuisée, je peux plus quoi. Donc lui, voilà, il pouvait plus travailler. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus travailler. Il y avait des étudiants ou des enfants qui étaient là, qui sont pas capables de suivre une scolarité normale parce qu'en fait, on est épuisé. On est dans un état de. Enfin, quand je dis, j'avais l'impression d'être une grand-mère de 80 ans quand je montais les escaliers, mais au quotidien, j'avais l'impression d'avoir 80 ans parce que mon corps ne suivait pas quoi. Mon énergie ne suivait pas, mon corps ne suivait pas. Puis bah, du coup, je te laisse imaginer les hauts et les bas au niveau
bien
du moral.
Sûr, bien sûr.
Et donc, je lui dis, moi, il n'est pas question que je me retrouve 6 ans sous antibiotiques. Enfin, clairement, il va falloir soit vous me donnez un truc plus fort, soit il faut qu'on trouve une alternative.
Et donc, je
lui parle du bol d'air jaqué. Il me dit, bah oui, les méthodes naturelles, ça peut fonctionner. Donc, on commence à parler, alors ça reste un médecin, on commence à parler huile essentielle, phytothérapie, parce que c'est des choses auxquelles je m'intéressais déjà. Et puis je lui dis, écoutez, au mois de janvier, donc je suis suivie par 2 naturopathes, et il y en a une qui avait suggéré de faire un jeûne. Parce que là, je le vois quand même, il me fait une ordonnance de 6 antibiotiques. 6 antibiotiques sur 3 mois, avec un bilan hépatique au bout d'un mois et demi. Il me dit, si le bilan hépatique, dès que vous avez les résultats, s'ils ne sont pas bons, on arrête tout. Et là, la trouille, quoi. Je me dis, oulala, on est en train d'essayer de combattre une maladie pour laquelle on n'est quand même pas sûr à 100% que ce soit ça, on vient déglinguer autre chose.
Bien sûr.
Donc pour moi en tout cas, c'était pas concluant, et c'était toujours un petit peu à se poser la question, est-ce que je fais bien?
Oui, parce que finalement, est-ce que ça va être ça tout le temps? Est-ce que je vais prendre le traitement et je vais revenir et on va refaire un autre traitement, et finalement, quand est-ce que tout ça va s'arrêter?
C'est ça. Et puis, est-ce que ça s'arrête à un moment?
Parce que
c'est ce qu'il disait, il y a des gens qui vont prendre un mois d'antibiotiques, donc le fameux mois que j'ai pris au mois de décembre, et puis c'est terminé, on n'en parle plus jamais. Et puis, il y a des cas comme celui que j'ai croisé en salle d'attente, ça faisait 6 ans, et il enchaînait les traitements et il était toujours aussi mal. Donc,
Et donc, l'idée du jeûne, t'es venue d'une des naturopathes que tu connais ?
Ouais, alors en fait, j'avais déjà soumis.
J'avais déjà envisagé la question.
J'avais déjà envisagé la question, mais sous un angle, un jour peut-être, et à la limite, les gens qui font ça, ils ont plein de courage, parce que moi, je ne pense pas que je serais capable de faire ça. Et en fait, la naturopathe m'avait dit une fois, parce que moi, depuis que je suis enfant, je ne mange pas le matin. C'est-à-dire que le petit déjeuner, soi-disant, un jour, je me suis disputée avec une nutritionniste, parce que par rapport à mes problèmes intestinaux, elle me disait, il faut absolument manger le matin, vous ne vous rendez pas compte, c'est le meilleur repas de la journée. Et sauf qu'en fait, moi, quand j'étais enfant, maman, elle me mettait des gâteaux dans mes poches que je distribuais à l'école. Donc c'était bien, j'avais plein de copains à la récré. Mais parce qu'en fait, je n'arrive pas à manger le matin. Mm-hmm. Mon corps, mon estomac, j'en ai pas besoin. Mm-hmm. Boire de l'eau, du thé, ça passe, mais sinon, rien du tout. Donc ça a effrayé ma mère. Mm-hmm. Et la nutritionniste que j'avais vue il y a peut-être 15 ou 20 ans m'avait dit « Mais vous êtes folle !» Sauf qu'en fait, j'y étais allée pour perdre quelques kilos. Résultat, j'en avais pris deux fois plus en prenant des petits déj le matin, puis j'étais pas bien, quoi. Mm-hmm. Donc pour moi, c'était normal de pas prendre de petit déjeuner le matin. Et quand j'ai rencontré... on a le droit de donner des noms.
Bien sûr.
Donc quand j'ai rencontré Sixtine, on en a parlé, et Sixtine me dit « Mais n'importe quoi, en fait, ce que tu fais, ça s'appelle du jeûne intermittent. »
Bien sûr.
Tu ne le conscientises pas, mais ça s'appelle comme ça, puisqu'entre le repas du soir et le repas du lendemain midi, il se passe un laps de temps, et c'est vrai qu'on est dans l'air où tout le monde commence à en parler, mais
bien sûr.
Moi je le faisais inconsciemment, parce que juste j'avais tendance à écouter mon corps.
Parce que ton corps avait besoin de ça.
C'est ça.
Et du coup c'était naturel pour toi, et effectivement on en revient de plus en plus à ça, dans le fait d'écouter davantage ce que son corps dit.
Exactement. Alors par contre ça n'empêche que le midi en général j'en mange bien,
donc
les gens disent mais dis donc, où est-ce que tu mets tout ça? C'est juste que moi j'ai pas pris de petit déj à 8h du matin, donc il faut quand même que je me rassasie, parce que malgré tout à midi j'ai quand même peut-être plus faim que quelqu'un qui aurait pris une collation à 10h ou...
donc c'est elle qui t'introduit cette notion là
voilà. elle me dit ça s'appelle le jeûne intermittent. Donc je commence à lire des choses là-dessus, parce que ça tombe bien, on est en plein mouvement du jeûne. Donc je me dis on va regarder un peu ce que c'est, et puis je prends un peu de renseignements, et en fait au mois de janvier, donc pendant mon histoire de médicaments, etc., j'ai une autre amie qui elle a des soucis d'acouphènes et d'hyperacousie, qui sort de chez la naturopathe, qui m'appelle et qui me dit écoute, je veux pas t'embêter trop longtemps, mais ça fait un an que je me pose des questions pour traiter mes problèmes par le jeûne. Sixtine m'a dit que toi tu t'y intéressais aussi, est-ce que ça te dit qu'on tente l'expérience toutes les deux? Parce qu'elle me dit, je me sens pas de le faire toute seule, je sais pas toi où t'en es par rapport à ça, donc on a eu pas mal d'échanges. Et je me dis, oui, banco, quoi, on va s'y préparer, et puis de toute façon, ça ne me fera pas de mal. Fi des mauvaises langues, hein, parce qu'il y en a plein qui pensent que ça fait du mal, mais ça ne me fera pas de mal, et puis si ça ne marche pas...
On vit l'aventure ensemble.
Voilà, on sera deux, on pourra se...
Au pire, ça marche pas.
Au mieux... ça me fera pareil que les antibios, avec une méthode naturelle. Donc en fait, on s'est préparé de janvier jusque juin. Donc on avait déterminé une date au mois de juin. Alors c'était pas la meilleure période, hein, parce qu'après coup, les kermesses des enfants, la fin de l'année, tout s'est mis
les
en branle à ce moment-là.
Les événements de famille.
C'est ça. Okay. Mais malgré tout, on s'était dit, juin c'est bien parce qu'il fait beau. On a eu la chance que... elle et sa maman qui a une maison dans le sud du côté de Montpellier. Donc la maison était vide à ce moment-là, donc on se prévoit... Donc au début, on se dit on va faire 6-7 jours de jeûne.
Donc là, vous décidez du coup de partir toutes les deux, pas forcément d'aller dans une structure. Tu sais, il existe pas mal de structures en France où justement tu vas faire un stage, une retraite, on appelle ça comme on veut, mais t'es très encadré, tu fais partie d'un groupe, il y a des activités sportives avec, il y a des différents professionnels... de santé variée, mais vous avez décidé de le faire vraiment toutes les deux de manière entre guillemets isolée, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais...
En fait, il y a plusieurs types de jeûnes déjà. Il y a les jeûnes, le jeûne le plus facile, c'est le jeûne Büchinger. Mm-hmm. Donc il y a une clinique en Allemagne qui s'appelle la clinique Büchinger, qui est très médicalisée, hein, prise de sang, prise de poids, massage, bain, voilà. Il y a effectivement plusieurs structures en France qui le proposent, notamment une structure où on fait, donc ça s'appelle jeûne et randonnée. Le but, c'est de faire de la randonnée, parce que pendant qu'on ne mange pas, il faut quand même solliciter ses muscles et éviter justement la fonte musculaire.
Ça permet de détoxifier le corps.
Voilà. Sauf que toutes proposent des sessions de 6 jours. Et notamment, j'en ai randonné, c'est une dame qui était atteinte de la maladie de Lyme, qui a fait un jeûne, alors je ne sais plus où, et qui a trouvé que c'était tellement bénéfique sur elle qu'elle a décidé d'ouvrir un centre.
D'accord.
Sauf qu'en fait, il y a deux choses. C'est que, pour en avoir discuté, donc mon amie s'appelle Steph, pour en avoir discuté avec Steph, on n'avait pas envie d'avoir de contraintes. Et au quotidien, enfin moi, je travaille beaucoup en parallèle avec les gens. Enfin, j'ai beaucoup de réseaux. Je pense être quelqu'un de très sociable. Je vois du monde, okay. Je discute tout le temps. Et je me connais. Quand je suis fatiguée ou quand ça va pas, je suis plus irritable. Mm-hmm. Et j'avais pas du tout. Enfin, le jeûne, c'est quand même prendre un moment pour soi,
bien sûr.
Pour son corps, ouais. Et pour faire à la fois de l'introspection, mais pas de l'introspection psychologique, plus de l'introspection physiologique. Si je suis fatiguée, je dors. Si j'ai envie de lire, je lis. Si j'ai pas envie de parler, je parle pas.
Si j'ai envie d'aller marcher, je vais marcher.
C'est ça. Et moi, je me connais.
Pas être soumise à l'organisation et aux contraintes d'un groupe.
Et moi, je me connais. Okay. Si je suis dans un groupe, je vais me forcer. Je vais me forcer parce que bah, les gens qui font la gueule quand ils sont en groupe, je trouve ça détestable. Mmh. Ceux qui jouent pas le jeu quand on a des règles de vie, c'est pareil, ça m'horripile. Et donc, je me suis dit, tu vas être fatiguée et tu vas te retrouver déjà irritable. En plus, j'avais lu quand même à pas mal d'endroits que... Donc, on était très fatiguées, on risquait de pas bien dormir. Mmh. Donc, je me suis dit, je vais être infâme. Enfin, j'ai pas envie de faire,
de
subir ça
faire
aux autres.
De me faire subir ça et de le faire
et
subir
moi
aux
de
autres.
Me forcer.
Bien sûr.
Et en fait, comme Steph et moi, on était dans la même...
Dans cet état d'esprit-là.
Dans le même état d'esprit. On s'est dit, à deux, on devrait pouvoir s'organiser en sachant que c'est pas ma meilleure amie. Donc, comme elle me disait, pour rigoler, on n'a pas de casserole. Ouais. Elle connaît pas mes casseroles, je connais pas les siennes. Et donc, voilà, on est parti en se disant, si un jour on n'a pas envie de parler, on parle pas. S'il y en a une qui veut faire ça et l'autre veut faire autre chose, eh ben, il n'y a pas
on
de souci.
Okay.
Voilà, on y va. En gros, elle me dit, on y va toutes les deux. On a chacun sa chambre. La maison, elle est pour toutes les deux. Si on veut échanger, on échange. Si on veut pas échanger, on n'échange pas.
D'accord.
Et en fait, ça m'allait bien. Sauf qu'on était quand même suivi par Sixtine, la naturopathe, mm-hmm. que sur place, si jamais ça n'allait pas, il y avait du monde pour nous
bien
encadrer.
Sûr.
Le but, c'était quand même d'avoir
de
une assistance.
De ne pas se mettre en danger.
Voilà, de ne pas faire n'importe quoi. Donc, on s'est préparé pendant 6 mois aussi.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. Il y a une préparation qui est très, très sérieuse derrière ça.
Alors,
c'est
le
une descente alimentaire, c'est ça ?
C'est ça. Le fait que nous, on ne soit pas encadrés dans un groupe et dans une structure médicalisée, on a préparé ça sur 6 mois. Parce qu'effectivement, il y a une descente alimentaire, mais la descente alimentaire, elle intervient juste 7 jours avant le jeûne. Donc, nous, on s'était dit... On fait 7 jours de descente alimentaire, 6 jours de jeûne et 7 jours de remontée. Sauf qu'en fait, les 6 jours de jeûne, ils se sont transformés au fur et à mesure que les mois passaient. Parce que donc, moi, je faisais déjà du jeûne intermittent. Steph, il a fallu qu'elle s'y mette. Une fois par semaine, on a fait 24 heures de jeûne. Quand on dit 24 heures, les gens ont l'impression que c'est du matin au soir. Ce qui n'est pas le cas. Puisqu'en fait, moi, le repas que je prends en famille avec les enfants et mon mari, c'est le soir. Donc en général, on dînait le soir et je ne redînais pas avant le lendemain.
D'accord.
Ce qui fait que mes 24 heures, ils étaient faits. En plus, en semaine, j'essayais d'organiser ça sur une journée où j'étais occupée. Par exemple, je quittais de chez un client à 12h et j'enchaînais sur des cours, par exemple, à 12h30 ou à 13h chez un autre client. Et donc, j'avais pas le temps, en fait, de me dire... Parce qu'on mange aussi beaucoup par habitude.
Bien sûr.
Là, j'avais pas le temps de me dire « Ah, oh, il faut que je me pose vite, c'est l'heure de manger.
Ouais, »
Donc, ma journée, elle se déroulait et j'avais pas forcément cette sensation de faim. Mmh. Et ce qui était rigolo, c'est...
Même au moment de passer à table le soir ?
Non, en fait, comme d'habitude.
D'accord.
Pas plus ni moins, finalement. Et ce qui était marrant, c'est que Steph, elle a essayé de faire le soir, et elle me disait, j'ai un coup de barre en début d'après-midi, je suis pas bien, j'arrive pas à faire ça. Donc ce qui était bien, c'est qu'on avait créé un groupe aussi avec Sixtine, donc la naturopathe, où on échangeait toutes nos sensations, comment on était. Donc pendant 6 mois, ça a duré ça. Et Steph, un jour, je lui dis, bah écoute, si ton coup de pompe, il est en début d'après-midi, à la limite, fais du midi au midi. Si le repas du soir, donc elle n'a pas d'enfant, si le repas du soir pour toi c'est pas gênant de le zapper, en fait faire midi-midi. Et elle a trouvé qu'effectivement c'était plus simple de faire comme ça.
S'adapter pour elle en tout cas.
Donc comme quoi, en fait c'est vraiment,
faut
vraiment chacun,
bah
oui, chacun fasse à
son... Et puis il faut tester, tu sais, j'ai écouté il n'y a pas très longtemps justement une interview de quelqu'un qui est spécialisé dans le jeûne et qui disait que en fait c'est pas parce qu'effectivement si tu n'arrives pas à le faire comme toi tu le faisais 24 heures du soir au soir, c'est pas pour ça que t'es pas fait pour le jeûne.
Bien sûr.
C'est peut-être juste que ton corps, il a besoin, comme ton ami Steph, de le faire du midi au midi, comme tu le dis. Mmh. Et le principe du jeûne, c'est pas de le faire du jour au lendemain et de s'arrêter comme non. ça pendant 6 jours, mais justement de prendre le temps comme vous l'avez fait, d'écouter votre corps, parce que en fait le corps il sait tout c'est naturellement ça. Ce dont il a besoin,
et de l'habituer et... en fait à réduire. Alors quand on dit réduire les quantités, attention, on parle pas d'un régime hein. C'est sûr. Vraiment réduire des choses qui vont être nocives pour nous. Donc l'alcool, donc c'est vraiment arriver le mois du jeûne, zéro alcool. Mm-hmm. La viande, okay. parce que la viande, ça génère beaucoup de toxines au niveau du foie. Le but, c'est vraiment de détoxifier le foie mm-hmm. Le plus possible mm-hmm. avant qu'on commence le jeûne mm-hmm. pour éviter les effets indésirables que peut provoquer le jeûne. Mm-hmm. Parce que le fait de ne plus manger du tout, forcément, les organes sont beaucoup, beaucoup sollicités.
Sucre.
Alcool, viande, sucre, laitage, tout ce qui est lait animal, donc lait de vache, lait de chèvre, lait de brebis. Alors moi, j'avais pas trop cette contrainte-là, parce que je ne bois pas d'alcool, mm-hmm. je mange presque pas de viande, et comme je suis intolérante au lactose, du coup, c'était quand même plus simple pour moi que pour Steph. Et sur les 7 jours, donc, avant le jeûne, donc nous, on s'est dit, on va pas faire 6 jours, on va essayer d'en faire 10. Alors elle est partie en se disant, je vais essayer d'en faire 14. Moi, je me suis dit, 10, c'est bien, parce que, en fait, pendant le jeûne, le 3e jour... On appelle ça la crise d'acidose. Donc, c'est une crise de détoxination suprême, on peut appeler ça comme ça. Donc, on est vraiment mal. Et il y a beaucoup de gens qui font donc 4 jours, ou certains poussent jusqu'à 6. Et moi, je me suis dit, une fois qu'on a passé la crise, autant continuer, parce que je vois pas trop... où est la différence
l'intérêt
entre
d'avoir
été si mal, et d'un coup de reprendre à manger. Enfin, pour moi, c'était pas... Et donc, je me suis dit, 10 jours, en plus avec le transport, etc., je voyais ça aussi un peu comme des vacances. Des vacances à la fois pour mon système digestif, mais pour moi, parce que partir au soleil, dans une maison avec piscine, sans personne, pas d'enfants...
Pas de contraintes.
Pas de ménage, pas de nourriture à acheter, pas de repas à faire, pas de boulot, parce que il a quand même fallu s'organiser pour pas travailler pendant cette période-là.
Et pour autant, c'est pas très long, parce que pour une personne comme toi qui est relativement dynamique, qui est habituée à avoir des journées bien actives, bien remplies, effectivement, quand on est dans le feu du quotidien, ça peut faire rêver de se dire waouh, plusieurs jours, voilà. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas une forme d'ennui quand même ?
Alors, il n'y a pas de forme d'ennui. Déjà, je pense vraiment que le fait de l'imaginer comme des vacances, enfin moi je le voyais vraiment comme ça, hein. J'avais hâte, enfin je disais à tout le monde, ça va être des vraies vacances. Alors je dis pas que quand je pars en vacances avec mes enfants, c'est pas des vraies vacances, mais on est toujours occupé, en fait on n'a pas un moment pour soi quand on est maman et qu'on a deux petits en bas âge, on est sans arrêt sollicité.
Oui, puis il y a quand même une forme de contrainte, même si c'est pas péjoratif ce qu'on dit, mais parce qu'il faut faire des repas, il faut les occuper, etc.
C'est ça.
Alors que là, tu n'avais qu'à penser à toi.
J'avais qu'à penser à moi, même pas à la nourriture, aux courses, à mon quotidien, donc c'est aussi pour ça que on a souhaité partir et pas le faire dans notre vie quotidienne, parce que le quotidien reprend le dessus. Ça sent la nourriture, il y a l'ordinateur dans le bureau, il faudrait faire ci, une lessive, un machin, un truc. Là, non, en fait.
C'était dans un contexte différent.
C'est ça. Donc, la semaine de descente alimentaire n'a pas été très compliquée ni très facile.
Comment elle se passe c'est quoi, tu réduis,
donc,
tu
en
réduis
fait,
les quantités?
7 jours avant, on ne réduit pas forcément les quantités, mais par la force des choses, ça se fait. C'est-à-dire que plus de viande, donc 10 jours, je crois que c'est 10 jours ou 15 jours avant, plus d'alcool. 7 jours avant, plus de viande.
D'accord.
Donc déjà, quand on retire la viande de notre alimentation, bah forcément en termes de quantité, ou même de calories ingurgitées, c'est moindre. Le laitage, bon moi j'en prenais plus, mais je me suis dit je vais aussi arrêter les végétaux, parce que ça me permettait aussi de faire les choses en même temps que Steph. On avait un espèce de soutien aussi mutuel, même si on ne vit pas ensemble et qu'on ne se voyait pas, de s'envoyer des messages. Mmh. Donc moi, je lui avais envoyé un message en disant « ça y est, on commence, on fait ça ». Et puis, donc on fait ça. Après, on arrête. Alors, je ne sais plus exactement, parce que j'avais quand même mon suivi écrit. Il y a les Sixtines qui nous suivaient. Tout ce qui est céréales, légumineuses. Alors, tout ça, ça se fait un jour après l'autre. Hein.
Progressivement, ce n'est pas du jour au lendemain.
Non. Okay. Et puis, on arrive, 3 jours avant le jour J du jeûne, à manger fruits et légumes. Donc, légumes cuisinés, là. Mais avec un tout petit peu d'oléagineux, mais plus de céréales. On a le droit de mettre des épices, mais si on peut réduire le sel, c'est mieux. 2 jours avant, plus de fruits et que des légumes crus. Et la veille, uniquement des jus de légumes. Alors, je t'avoue que moi, les jus de légumes, l'enfer. Enfin, je trouve ça dégueu. Clairement, ça a été ma journée la pire.
D'accord. Ça va, c'est une journée, donc...
Non, mais le jus de légumes... alors, j'avais des recettes. Heureusement, j'ai quand même des amis qui m'ont envoyé. Puis j'ai ma deuxième naturopathe qui me suivait, donc avec mon histoire de bol d'air, qui s'appelle Angélique aussi, qui m'avait envoyé des recettes et tout. Mais... Steph me dit oh, moi j'ai l'habitude, j'en fais souvent, j'aime ça, alors que pour moi ça n'a pas du tout été le cas. Enfin,
d'accord.
Ça, bon, la journée jus de légumes, là forcément en termes de réduction, je crois qu'on doit ingurgiter genre 200 calories dans la journée si on boit 3 bols de jus de légumes par repas, quoi. Hein, donc c'est pas non plus la méga fête. Et puis bah, arrive le jour où ça y est, on mange plus
début.
Quoi. Et on mange plus du tout. Parce que les gens me disent mais t'as rien mangé du tout pendant 10 jours. Ben non, j'ai rien mangé du tout
absolument
pendant 10
rien.
Jours. La veille, je suis allée...
Juste de l'eau.
Juste de l'eau. Parce que, donc, je disais tout à l'heure, il y a le jeûne Buchinger avec les bouillons. Donc,
oui.
En fait, c'est un jeûne avec bouillon. Un bouillon le soir et ça peut être un bouillon le matin ou un jus hyper dilué pour apporter un minimum d'énergie. Le jeûne hydrique. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait un jeûne hydrique. Le but étant de s'hydrater le plus possible.
Bien sûr.
Mais de pas ingurgiter ni de sel, ni de pas de masse solide du tout, parce que dans un bouillon il y a quand même des dépôts, donc là en fait pas de dépôt du tout.
Donc
là,
ça veut dire une eau juste de l'eau claire, même pas une eau avec une rondelle de citron.
Alors au début donc c'était de l'eau claire et on a quand même le droit aux tisanes. Donc moi j'étais partie, ah oui, j'avais acheté plein de tisanes. En plus comme j'avais des douleurs articulaires et que j'avais lu que ça pouvait entraîner des douleurs musculaires, j'avais acheté de la mauve pour les articulations. Enfin, j'avais acheté en gros 6 ou 7 tisanes uniques, c'est-à-dire avec une seule plante. Et Steph, elle avait pris une espèce de mélange d'infusion, citronnelle, menthe, etc. Sauf que donc premier jour, en fait, le premier jour de jeûne, on a fait du transport, c'est-à-dire qu'on est descendu en train jusqu'à Montpellier. Donc voilà, ça s'est fait, on avait notre bouteille d'eau. Et en fait, arrivé là-bas, on s'est installé. Steph me dit, tu veux une petite tisane? Donc on se fait une tisane. Et là, je lui dis, putain, la tisane, j'y arrive pas, quoi. Mais vraiment, elle me dit, ah bon? Bah, par contre, j'avais froid. Parce
d'accord.
Que, en fait, je pense que... Bon, il faisait chaud là-bas, il faisait plus chaud que chez nous. Mais j'avais vraiment froid, donc j'avais mon manteau. Elle me dit, bah, ça te fera du bien, la tisane, quand même. Donc je prends...
Mais tu n'y arrives pas, dans le sens, ça passe pas.
Ça passe pas, le goût, ce goût d'herbe, enfin...
D'accord.
Parce que c'était pas des infusions, c'était vraiment de la tisane d'herbe, quoi.
Tu l'avais pas goûté, en fait, avant donc...
Si, mais j'en connais, parce que la verveine, je connais, la menthe, je connais. Enfin, en plus, je suis quelqu'un qui boit beaucoup de thé, tisane et d'infusions, donc... Mais là, est-ce que c'est psychologique ou pas, je sais pas, mais en tout cas,
Ça passait pas.
Ça passait pas. Et puis, j'étais aussi dans cette idée de me dire, de toute façon, le jeûne, je le fais... J'ai pas d'objectif. J'avais pas l'objectif de me dire ça va guérir de la maladie de Lyme, ça va réduire mes douleurs articulaires. Je suis partie en me disant... Le médecin m'a dit que si ça marchait, enfin si ça me faisait du bien, tant mieux, et que je pouvais éviter mes fameux 6 antibiotiques, voilà. Mais que si ça me fait rien, eh ben c'est pas grave. Au moins j'aurais vécu une expérience,
ouais,
j'aurais pris 10 jours de vacances. Voilà, j'étais pas dans un objectif pur et dur. Il faut absolument que ça marche sur quelque chose.
En fait, ton objectif c'était vivre une expérience et voir ce que ça donne.
C'est ça. Et du coup, la tisane, eh ben en fait, comme au niveau du goût c'était pas terrible, je me suis dit ben c'est pas grave. Je vais pas me forcer,
c'est pas
quoi.
Une obligation.
Donc je pose la question parce que le deuxième jour retisane et alors là impossible. Hein, je les ai vidés dans l'évier. Enfin moi je ne pouvais pas boire de la tisane mais vraiment. Et quand je passais à côté des sachets qui étaient ouverts, en plus on a un odorat quand on arrête de manger qui est exacerbé. Mais c'était vraiment limite des nausées quoi.
D'accord.
Là ça me donnait le haut de cœur donc j'envoyais des messages à mes amis naturopathes en leur disant est-ce que c'est normal parce que j'ai lu partout quand même que il faut boire de la tisane. Et puis j'ai mal parce que je commençais à avoir donc les douleurs elles étaient bien là. On a la pépite quand même, enfin moi j'avais la bouche sèche, c'était donc l'eau
ça allait,
l'eau ça allait,
l'eau claire ça allait, d'accord.
L'eau ça allait, mais l'eau fraîche, j'avais besoin qu'elle soit mise au frigo, moi qui bois tout le temps de l'eau à température ambiante, là il fallait qu'elle soit au frigo, il fallait qu'elle soit bien fraîche. Et ça n'avait rien à voir avec le climat ambiant, c'était vraiment, c'était comme ça, j'avais besoin de ça. Par contre, au bout du deuxième jour, vraiment, enfin, ouais, pas d'énergie, mais quand je dis pas d'énergie, prendre une douche, c'était devenu un calvaire, quoi. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon, enfin, moi en plus, j'avais les palpitations, donc ça, j'ai regardé notamment en replay sur Arte, ils avaient fait un documentaire médicalisé sur le jeûne, nouvelle thérapie. Et en fait, moi j'étais consciente que ça allait me prendre de l'énergie, que j'allais être fatiguée, qu'il fallait que je m'écoute. Sauf qu'en fait, j'étais dans un tel état où je ne m'attendais pas du tout à être aussi, alors, mal entre guillemets. Parce que ça exacerbe les douleurs qu'on peut avoir. Cette fameuse crise d'acidose au bout du troisième jour, donc il y a beaucoup de gens qui ont des maux de tête. Moi, j'ai pas eu de maux de tête du tout. Mais alors, des palpitations. Je me levais d'une chaise, Mais j'avais le cœur qui s'emballait comme si j'avais couru pendant 10 km. C'était...
Tu t'es inquiétée à ce moment-là ou pas ?
Alors, le fait d'être suivie quand même par...
par deux personnes.
Par deux personnes qui s'y connaissent, qui... je me suis pas inquiétée parce qu'elles, elles étaient très rassurantes. Et elles étaient aussi dans la position de nous dire, à Steph et à moi, les filles, on ne s'entête pas. Si ça va vraiment pas et que vous sentez que vous êtes au bout et que vous ne pouvez pas tenir, vous arrêtez.
D'accord. On écoute son corps.
C'est ça. Donc, on était quand même assez rassurés sur le fait que c'était normal, finalement, d'être dans cet état-là. Mmh. Même si, d'une personne à l'autre, l'état n'est pas le même. Moi j'étais épuisée, mais quand je te dis épuisée, à côté les douleurs et la fatigue de l'année dernière, c'était rien quoi. Je me levais d'une chaise, il fallait que je m'allonge.
D'accord.
Donc j'ai passé, pour répondre du coup à ta question, j'ai passé 10 jours à pas m'ennuyer, puisque soit je dormais, j'ai beaucoup dormi, en fait j'ai fait des siestes d'une demi-heure à une heure plusieurs fois dans la journée. J'essayais quand même d'avoir un minimum d'activité, c'est-à-dire qu'il y avait un figuier qui perdait ses figues, on ramassait les figues, qui n'étaient pas mangeables, on les jetait au compost, et puis à un moment, on est allé acheter des bouteilles d'eau, parce que pour éviter justement les résidus, c'est mieux de boire de l'eau en bouteille, c'est pas très écologique, mais c'est mieux que l'eau du robinet. Et en fait, nos activités journalières, elles se résumaient à ça.
D'accord.
Plusieurs fois, on s'est dit, il faut qu'on marche, parce qu'on avait lu partout qu'il fallait qu'on marche. Sauf qu'en fait, au bout de 10 minutes, alors déjà, on marchait, on s'est fait doubler je ne sais combien de fois par des vieux, mais des vieux vieux. des gens qui devaient être en cure du côté de Montpellier, qui marchaient plus vite que nous, quoi. Ça, c'est... Alors, heureusement,
après,
on en riait.
Après, senti être...
comme une grand-mère, finalement, je me suis rendu compte que j'étais pire. C'est ça qui était bien. Je pouvais pas monter d'escalier, j'arrivais plus à marcher et je me faisais doubler par des grands-pères et des grands-mères, quoi. Donc, mais c'était bien parce que le fait d'être deux, on a quand même tendance à garder le moral et à... Franchement, je pense que si j'avais fait ça seule, en plein hiver, dans un endroit lugubre, je me serais tiré une balle.
La motivation n'est pas là.
Non. Là, on soutenait l'une l'autre, on avait presque les mêmes symptômes en même temps. Il y a eu une journée, je me souviens... Alors, on s'inquiétait quand même, parce qu'on avait lu partout qu'au bout du quatrième jour, on avait un regain d'énergie. Mm-hmm. Donc, le premier jour, on va pas bien. Le deuxième, on va pas bien. Le troisième, on va pas bien. Le troisième, on va pas bien du tout. Hein. Enfin, moi, j'ai eu des douleurs d'estomac, des remontées acides, des trucs horribles. Elle a pas eu ça. On n'avait pas exactement les mêmes symptômes, hein, bien évidemment. Par contre, elle était très fatiguée. Les palpitations, moi, j'en avais beaucoup. Elle n'en avait pas. Mais c'est aussi lié, du coup, aux symptômes qui sont exacerbés. Et en fait, on a rigolé. Avec le peu d'énergie qu'on avait, on a essayé de rigoler. Parce que malgré tout, rire, ça demande un vrai effort. Mmh. Et en fait, le corps est tellement occupé à s'auto-nourrir et à s'auto-guérir, entre guillemets, que du coup, il n'a vraiment pas l'énergie de faire autre chose. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'ennuyer. Parce que s'ennuyer, c'est dépenser de l'énergie à se dire « je m'ennuie et qu'est-ce que je pourrais faire ?» Là, on n'a même pas l'idée de « qu'est-ce que je pourrais faire ?» puisque de toute façon... On ne peut rien faire.
Ton corps est déjà en train de faire quelque chose, donc il n'a pas l'énergie pour faire autre chose.
C'est ça. Mais comme la digestion, souvent quand on fait un gros repas, après Noël par exemple, où on a juste envie, c'est de se poser, de faire une sieste, mais parce qu'en fait le corps a besoin de notre énergie pour pouvoir digérer les aliments. Bah là, c'est la même chose, sauf qu'il s'autodigère quelque part. Il va aller piocher dans les mauvaises cellules et dans la graisse pour pouvoir s'auto-nourrir et ne pas faire faillir les organes vitaux, les reins, le cœur, le foie, le cerveau.
Et donc, tu n'as pas eu ce regain d'énergie au quatrième jour ?
Alors, j'ai pas eu de regain d'énergie au quatrième jour. Steph n'a pas eu de regain d'énergie au quatrième jour. Et
ni au cinquième, ni au sixième.
Et tous les jours, on se levait et on se disait, mais...
Bon sang.
J'allais dire un gros mot. Ouais. Mais bon sang, comment c'est possible ? On a lu partout. En plus, on était inscrite sur un groupe Facebook de jeunes, justement. Comment c'est possible ? Enfin, qu'est-ce qu'on fait pas bien ? Alors moi je me dis, vu que je bois pas de tisane, si ça se trouve c'est à cause de ça. Sauf que Steph, elle en buvait des tisanes, donc c'était pas ça. Et on n'a pas eu... Il y a même eu un matin, alors je sais plus, il faudrait que je reprenne mes notes parce que j'ai tenu un journal de bord, mais quel jour je me suis levée et je lui ai dit, écoute, je suis désolée, mais je suis d'une humeur de chien. Mais d'accord. Vraiment d'une humeur de chien. J'ai rien contre toi, je suis juste mal. Elle me dit, pas de soucis, je te laisse tranquille. Donc elle est allée farfouiller dans son coin, faire des trucs et tout. Et en fait, d'ailleurs, mon pauvre mari qui m'a appelée pour prendre des nouvelles, il s'est fait enguirlander pendant 10 minutes. J'étais à cran, quoi. Pourquoi ? Alors tout le monde dit, oui, mais c'est parce que t'as pas mangé. Ben non, c'est pas parce que j'ai pas mangé. Pourquoi ce jour-là et pas les autres jours ? Parce que les autres jours, bien. Et en fait, le lendemain, c'était Steph. Le lendemain, elle se lève et elle me dit, parce qu'au fur et à mesure de la journée, ça s'est amenuisé, et le soir, j'allais mieux, enfin, mm-hmm. j'étais de nouveau enjouée comme d'habitude. Et elle me dit, je comprends ce que tu as vécu hier, parce qu'aujourd'hui, c'est moi. Et bah, ok.
Très bien.
Et en fait, je pense que si on avait vécu ça en groupe, on l'aurait mal vécu. Mm. Alors que là, on s'est dit, il n'y a pas de souci, enfin, voilà, on n'a pas de contraintes. Moi, je vais aller faire un tour, un petit tour, hein. Parce qu'une demi-heure de tour, en gros, c'était 350 mètres. mais c'est vrai qu'on n'a pas eu ça. Et alors, il y a autre chose qu'on lit quand on lit des livres sur le jeûne. C'est ce côté... donc, il y a le regain d'énergie, soi-disant. Et il y a la clairvoyance. Mm-hmm. Alors, nous, quand on est partis, je me souviens, dans le train, on s'est dit... Oh là là, on attend ce jour-là parce qu'on a plein de questions. Donc, à la fois sur la vie perso, sur la vie pro. Il y a des choses qui sont en branle, des projets. On va se lever un matin et on aura une illumination. On aura les réponses à nos
s'éclaircir.
Questions.
Okay.
Eh ben en fait non.
Pas du tout.
Faut quand même se rayer ça de sa tête. C'est non, ça n'arrive pas. Enfin, en tout cas chez nous, ni chez elle ni chez moi. Donc on peut imaginer quand même que il y a un pourcentage de gens qui jeûnent à qui ça n'arrive pas. On n'a pas eu ça. Mm-hmm. Alors après par contre on a je dirais pas une prise de conscience parce que la prise de conscience sur la planète, l'écologie, notre façon de vivre, notre façon de manger, on l'avait déjà eu avant puisqu'on s'était préparé pendant 6 mois.
Oui, et puis parce que si tu te lances dans ce genre de démarche, c'est que tu as déjà réfléchi à la question.
Bien sûr. Donc conscient de ce qu'on avale, c'est pas toujours sain pour notre santé, ce qu'on fait, c'est pas toujours bon pour la planète, qu'il y a des choses, c'est plus notre mental qui nous le dicte que nos propres besoins. Enfin, voilà. Après, on avait quand même une démarche, entre guillemets, spirituelle qui était déjà établie. Enfin, moi, je te dis, j'avais commencé à méditer 1 an avant. Donc là, en fait, sur mes journées, mon programme, c'était je me lève, je prends une douche. Donc ça, déjà, ça me prend 2 heures, qu'on soit clair. Je restais pas 2 heures sous la douche, hein, mais voilà. Éventuellement, je ramasse un peu les feuilles, les figues, tout ça pour nettoyer les abords de la piscine. Je trempe mes pieds dans l'eau, je lis. Je médite, je dors, je médite, je vais faire un petit tour, je médite, je dors, je lis, voilà. Okay. Puis on discute, bien évidemment, hein. On était deux, donc on a échangé pas mal. Et puis j'écris, parce que j'ai écrit donc un journal de bord. Sur mes journées de jeûne, comment ça se passait, comment j'étais, le poids que j'avais perdu, parce que y a beaucoup de gens autour de soi à qui on n'en parle pas parce qu'on sait la réaction qu'ils vont avoir. Et puis d'autres qui ont très peur. Donc moi, par exemple, j'en avais pas parlé à mes parents. D'accord. Je leur avais dit que je partais faire une cure médicale. Donc, j'avais pas expliqué où, pourquoi, comment, avec qui, voilà. Il y a que quand je suis revenue que je leur ai dit que j'avais fait un jeûne thérapeutique. Mm-hmm. Et finalement, ça a été. Enfin, ma mère a accueilli ça bien mieux que ce que. Enfin, finalement, on se met des barrières parfois, mais je m'attendais à ce qu'elle. Comme quand j'étais petite, qu'elle me collait des gâteaux dans les poches, je m'attendais à ce qu'elle me dise: mais Angélique, t'es folle, tu te rends compte. Voilà, la réaction peut-être la plus virulente que j'ai pu avoir, c'est en provenance de ma sœur, qui a dit « mais tu vas perdre un os, tu te rends pas compte, moi j'y crois pas ». Et puis en fait, le « moi j'y crois pas », au bout de 3 jours, j'avais plus de douleur dans les doigts. Donc 3 jours après avoir arrêté de manger, j'avais plus de douleur dans les doigts. Et la douleur dans les doigts, c'était pas la plus pénalisante, parce que c'est ce que je te disais, tu sais, les genoux et les hanches, c'était vraiment difficile. Mm-hmm. Mais les doigts... c'était en fait la douleur, c'était comme si on tirait d'un côté et de l'autre pour m'arracher les doigts.
D'accord.
Et en fait, quand cette douleur là elle est plus là, mais quand, enfin, même on peut employer le terme, quand elle disparaît, on a l'impression que c'est pas possible, en fait, de plus avoir cette douleur là lancinante en permanence. Et je me souviens, à un moment, j'ai pris un verre d'eau et je dis à Steph: je crois que j'ai plus mal dans les doigts. Elle me dit: c'est pas possible. Je lui dis: écoute, toi, ça m'en fait encore des frissons. Je lui dis: je te jure, je crois que j'ai plus mal dans les doigts.
Ouais.
Et là, en fait, je me dis: déjà, si ça s'arrête là, j'aurais gagné
j'ai
ça.
Gagné,
quoi.
Ouais,
j'ai gagné le fait de plus. Parce que les médicaments que j'avais pu prendre, en fait, c'était global. Donc quand ça s'atténuait partout de la même façon. Mm-hmm. Mais j'avais pas plus de douleur à un endroit ou plus de douleur à un autre endroit. C'était partout pareil.
C'était progressif et homogène, entre guillemets.
Ouais.
Alors que là, c'était vraiment ciblé sur tes doigts.
Alors, au bout du 3e jour, ciblé sur les doigts.
D'accord.
Et au fur et à mesure, ça s'est arrêté. Donc, les douleurs se sont arrêtées un peu partout. Donc, les doigts au début, les épaules. Après, je ne suis pas capable de savoir quel jour j'ai plus eu mal aux hanches, aux genoux. Mm-hmm. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 9 jours, Steph me dit, moi j'en peux plus, je crève de faim, c'est une catastrophe. Moi j'avais rêvé de cookies et de, alors en plus intolérante au lactose, j'avais rêvé de croque-monsieur dégoulinant de fromage. Un truc extraordinaire que je ne mange jamais. Et elle me dit, j'en peux plus, qu'est-ce qu'on peut faire ? En sachant quand même qu'au bout du cinquième jour, comme elle avait très faim et que moi j'avais très très mal à l'estomac, mais vraiment très mal à l'estomac, Sixtine nous avait dit, vous pouvez mettre une rondelle de citron dans votre eau.
D'accord.
Et alors le jour où tu bois un verre d'eau avec une rondelle de citron, donc ça devait faire ouais, 4 ou 5 jours. Mais là, t'as l'impression que le monde t'appartient. C'est... Waouh, je crois que c'est le meilleur truc que j'ai jamais mis dans ma bouche de ma vie.
C'était la meilleure eau citronnée de toute ta vie.
Ah, mais c'est la meilleure eau de toute ma vie. C'était merveilleux. Donc déjà, on avait eu cette phase-là, mais comme deux neuneux, quoi. Assise face à face, en se disant, oh, qu'est-ce que c'est bon. Mais tu sais, ça paraît fou parce que tu te dis, non mais n'importe quoi, elle a bu un verre d'eau avec une rondelle de citron, ouh. Mais vraiment, on a vécu ça comme un truc extraordinaire. Et au 9e jour, donc un jour avant d'arrêter le jeûne, Steph, elle me dit, moi j'ai trop faim, hein, faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et donc elle me dit, j'ai lu qu'on pouvait peut-être prendre du bouillon de légumes. Donc on envoie un message à Sixtine en lui demandant ce qu'elle en pense. Est-ce que si on fait ça, ça va casser le jeûne complètement et que du coup on se réalimente? Parce qu'elle, elle était quand même partie du principe qu'elle allait faire 14 ou 15 jours. Mmh. Donc quand moi j'allais arrêter, elle avait encore 4 jours derrière. Et donc Sixtine lui dit, non, ça va pas tout casser. Si tu prends un bol de bouillon le soir, ça permet peut-être aussi de relancer la machine et de faire en sorte que ton corps de nouveau reprenne un peu d'énergie pour continuer à combattre quelque part. Et alors ce bouillon, mais ça c'est l'épopée, hein. Donc déjà, rien que le fait qu'elle fasse... Donc on a pris un bouillon tout fait, un bouillon de cube, hein. On n'a pas fait cuire des légumes, parce que là, ça aurait été la cata, hein, au niveau gustatif, et puis rien qu'à l'odorat. D'ailleurs, quand on se promenait pour aller faire une course, quand on allait acheter du bouillon de légumes, des fois, on s'arrêtait, on sniffait comme ça, puis on se disait, oh, tu sens ? Ça sent le chèvrefeuille, parce qu'en fait, il y avait plein de chèvrefeuilles partout. Et des fois, on s'arrêtait, et on humait, tu sais, les fleurs, l'air. Mais on aurait dit deux débiles, hein, enfin...
Mais vous redécouvriez.
En fait, tu redécouvres toutes les odeurs. Ça, par contre, c'est vrai. Et la clairvoyance, je pense que c'est ça aussi. Tu as une vision globale de ce qui t'entoure, la moindre petite chose. Et je pense que du coup, ça fait vraiment du bien à la fois à tous les sens. En fait, tous nos sens sont plus pollués.
Bien sûr.
Et je pense que cette histoire d'énergie et de clairvoyance, c'est peut-être ça.
C'est ça.
Finalement, c'est d'être au fait de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui se passe. Et donc ce bouillon de légumes, donc c'est Steph qui l'a préparé. On s'est posés toutes les deux sur la terrasse comme deux petits vieux, l'un en face de l'autre avec notre bol. Et alors là, moi j'ai eu une crise de fou rire. Je lui dis, mais tu la vois la maison de retraite là? Mais c'était ça, l'odeur déjà du bouillon, c'était l'odeur de la, pour moi c'est l'odeur de la maison de retraite. Et Steph, donc pas d'énergie pour rire, mais le fou rire était là. En fait, on avait toutes les deux un fou rire qu'on n'était pas capable d'exprimer parce que ça voulait pas y aller. On n'avait pas d'énergie. Et moi, je pleurais, et je lui dis, mais j'en peux plus. Elle me dit, mais tu te rends compte que t'es en train d'anéantir mon plaisir
devant un bouillon.
Mais c'est ça, un bouillon de légumes. Et puis un truc clair, hein, ultra filtré. Et je lui dis, mais franchement, l'odeur. Puis alors, en plus, encore une fois, pas d'énergie. Donc, soit d'y aller à la cuillère, soit de prendre le bol et de le mettre à sa bouche, mais c'était une épreuve, une vraie épreuve. Mais alors, on a ri, et encore aujourd'hui, quand on en parle, parce qu'on s'est vu la semaine dernière, elle me dit, mais on a trop rigolé. Et en fait, c'est un peu, on a tout lâché, quoi. Le bouillon de légumes, ça a été... Et donc, on a fait ça le 9e jour. Et puis, le 10e, on a de nouveau pas mangé, on s'est quitté, puisque moi, j'ai repris... J'ai repris le bus pour rentrer, j'ai pris un Ouibus pour rentrer jusqu'à Reims, donc de Montpellier. Mais de nuit, donc je m'étais dit, de toute façon, vu que je dors tout le temps, de nuit ça va être parfait. Enfin, c'était sans compter le voisinage et le fait que j'allais me retrouver dans le fond du bus, mais ça c'est une autre histoire. Heureusement que j'avais pas de douleur, hein, parce que j'étais coincée quand même entre deux personnes pendant 12 heures. Et donc moi je suis rentrée, elle est restée 4 jours de plus.
Toute seule.
Ouais. Elle a sa maman qui est arrivée le mercredi suivant, donc quand elle a commencé à se réalimenter à ce moment-là. Et en fait, moi, quand je suis rentrée, donc le dixième jour au soir, donc j'avais dit à mon mari, prépare des légumes, j'ai envie de concombre, j'ai envie de tomates, d'avocats, des fruits. Enfin, je savais qu'il y avait une remontée, puisque en fait, la remontée alimentaire, c'est la même que la descente.
Donc, dans le sens inverse. Donc tu recommences par des choses.
Jus de légumes, deuxième jour légumes crus, troisième jour légumes cuits, fruits, etc., etc. Et donc il m'avait fait une photo avec ce panier de légumes et de fruits où je m'étais dit waouh, j'ai quand même un mari merveilleux. Il est allé faire des courses de fruits et légumes juste pour moi. Et en fait, je, comme les jus de légumes, j'y arrivais pas, je me suis octroyée de me faire une mini purée d'avocat. En fait, pas du guacamole, mais juste écraser de l'avocat. Parce que moi, j'ai eu une peur pendant tout mon jeûne, c'est de ne pas réussir à remanger. Alors, sans parler d'anorexie, mais j'avais l'impression que je n'arriverais plus à mâcher.
D'accord.
Puisqu'en fait, à ne pas solliciter ses mâchoires, enfin, à ne pas manger, c'est bizarre comme quoi on peut chacun avoir des peurs bizarres. Enfin, ça fait deux fois que je dis bizarre.
Ça devait vraiment être bizarre.
Oui.
Du coup.
Mais oui, parce que se dire, et quand j'en parlais à Steph, elle me dit, mais moi, j'ai pas ça. Hein. Elle dit, moi, j'ai hâte de remanger.
De mâcher.
Et moi, j'avais pas. J'avais vraiment peur de ne pas réussir. Mm-hmm. C'est quand même fou. Mm-hmm. Hein,
bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est fou, mais c'était le cas.
C'était le cas.
Donc, il fallait l'accueillir.
Et donc, j'avais demandé à Sixtine et à Angélique si, au lieu d'un bouillon de légumes, d'un jus de légumes, je pouvais écraser, tu vois, me mixer, genre faire un smoothie de légumes, un truc. Et elle m'avait dit oui. Et en fait, je me suis octroyée de manger deux noisettes de tomates et deux mini cuillères à café, d'avocat. Et en fait, quand j'ai vu manger ça, donc déjà, j'ai mangé avec une lenteur incroyable. Les enfants, ils me regardaient manger en disant « Mais ça va pas, maman ?»« Bah si, ça va, mais maman, elle a du mal un peu. Hein. » Tu sais, je faisais fondre l'avocat dans ma bouche alors qu'il était déjà en purée. Et en fait, quand t'écoutes mon mari aujourd'hui, ça le fait beaucoup rire parce qu'il me dit « Mais non, mais Angélique, elle a mangé deux cuillères d'avocat, elle était repue.
Ouais. » Elle était ballonnée.
Mais non, mais c'est ça. Moi, j'ai écrit à tout le monde parce que du coup, tous ceux qui m'avaient suivi sur mon journal de bord, j'ai écrit un message en disant « J'ai mangé deux cuillères d'avocat, une noisette de tomate, j'ai l'impression d'avoir fait un gueuleton de Noël. Mm. J'ai été pleine comme après un gueuleton de fête, pour de vrai. » Et donc, voilà. En fait, la réalimentation se repasse au fur et à mesure. Et puis, les douleurs qui sont plus là.
Et qui ne reviennent pas, du coup.
Bah, du coup, tous les jours, je me dis... Est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça va pas revenir? Donc un peu comme s'il y avait l'épée de Damoclès, hein, à se
bien
dire...
Sûr.
Parce que je me dis, c'est quand même incroyable. Enfin, que ce soit Steph ou que ce soit mon mari, personne n'y croyait. Enfin, moi, la première, j'étais pas partie en me disant, je vais revenir sans douleur. Donc là, je reviens, j'ai plus de douleur du tout.
J'ai aucune. Donc là, sur ton échelle de 0 à 10...
De 0 à 10, je suis à 0.
Incroyable.
Alors qu'avec les médicaments, j'étais
à 2.
Là, 0. Mais 0, 0. Alors, bien évidemment, je me fais violence, hein. Je teste tout un tas de trucs pour vérifier si vraiment j'ai plus mal. C'est-à-dire que je suis rentrée le dimanche. Le lundi, j'avais une réunion toute la journée. J'ai bossé, mais au ralenti, mais j'ai bossé. Le mardi, j'ai accompagné mon fils en sortie scolaire. On a fait 12 km à pied. Donc je suis rentrée, j'étais épuisée, bien évidemment. Hein, les derniers kilomètres, en plus, il faisait chaud, là. C'était pendant la canicule du mois de juin. J'étais épuisée, mais j'avais pas de douleur. Donc je me suis dit... Ma cocotte, t'as abusé, demain tu vas avoir mal partout. Parce que c'est aussi ce qui se passait quand j'avais mes douleurs. Si j'exagérais un petit peu trop à rester longtemps debout, à faire un effort plus que plus en me disant tu vas y arriver, le lendemain c'était pire. Là, plus de douleur du tout. Je fais ma rando le mercredi, pas de douleur. Et en fait, les jours passent et j'ai toujours pas de douleur. Et je regarde cette ordonnance quand même avec mes 6 antibiotiques en me disant, toi ma cocotte, eh ben, je suis pas sûre que je vais aller chercher les médicaments chez le pharmacien, quoi. Donc elle est là. Donc là, maintenant, ça fait un mois passé.
Ouais, ça fait plus d'un mois là que t'es revenue de ton jeûne.
Ouais, je remange tout normalement, comme tout le monde.
Toujours pas de douleur. Est-ce
toujours pas de douleur.
Est-ce que tu as ressenti d'autres, au-delà des douleurs, d'autres bienfaits suite à ce jeûne?
Je me sens... alors, je ne peux pas dire zen, parce que je ne suis pas d'un tempérament à être zen. Qu'on soit clair. Mais je me sens apaisée.
Apaisée.
En fait, déjà, je suis hyper reconnaissante. À Dieu, à l'univers, à comme on veut l'appeler, une vraie gratitude pour la vie, parce que je te disais tout à l'heure, je voulais changer de véhicule et j'ai l'impression d'avoir changé de véhicule. J'ai l'impression qu'on a pris mon esprit et qu'on l'a mis dans un nouveau corps. En fait, je me suis réapproprié ce corps finalement, peut-être que j'avais maltraité, j'en sais rien, hein, mais qui du coup, en fait, je me voyais toujours avec plein de défauts. Enfin, j'étais très critique par rapport à moi-même, à mon corps, à mon physique, tout ça. Et en fait, donc, le jeûne m'a aussi fait perdre du poids.
Bien sûr.
Sachant qu'a priori, on a toujours quelques kilos à perdre. Mais moi, j'en ai quand même perdu beaucoup.
Qu'est-ce que t'appelles beaucoup ?
J'ai perdu 9 kilos.
D'accord.
Donc, j'en ai repris 3. Parce que forcément, une fois
bien
qu'on
sûr.
Se réalimente, que les intestins se remplissent, etc. Donc, j'en ai repris 3. Mais j'ai perdu, j'avais déjà pas beaucoup d'attributs féminins, le peu que j'avais, je les ai perdus, quoi. Et je parle pas des fesses. Donc, même par rapport à ça, en fait, je m'en fiche.
Maintenant, c'est OK.
Ouais, j'ai un côté très peu peu importe ce qui se passe, je m'en fous, je vais bien en fait. J'ai plus ces moments de déprime parce que malgré tout, il y avait des matins, voire même des jours entiers, où le moindre petit couac dans le rouage,
le petit grain de sable,
ça me faisait partir au quart de tour. J'étais en déprime pour la journée, voire même j'avais des moments des crises de larmes, quoi. À me dire, mais c'est pas vrai. Enfin, là, j'ai eu des. Enfin, depuis que je suis rentrée, il s'est passé plein de trucs. J'ai eu des soucis avec des clients, des trucs qui avant m'auraient empêché de dormir, ou tu vois, quand on est à son compte, des problèmes de trésor, par exemple, qui pourraient me faire bondir. Ben, en fait, je m'en fous.
Ça va se faire, ça va se passer.
Oui, parce que je pense que tout est bien. Je pense que je suis à ma place et que tant que les douleurs, elles ne reviendront pas, je serai zen. Et en fait, mais je pense aussi au-delà des douleurs, parce que pour en avoir discuté avec Steph, elle est aussi dans cet état-là où on a l'impression d'être juste bien. Alors, on aimerait que ça dure le plus longtemps possible. Maintenant, je suis incapable de dire si ça va durer, si dans 6 mois, ce sera toujours pareil, dans 1 an, dans 2 ans. Ce qui est sûr, c'est que c'est un état dans lequel j'ai envie de rester.
Ouais.
Parce que même mes enfants m'ont dit, tu t'énerves moins, t'es plus... Je suis peut-être pas plus joyeuse, mais en tout cas, plus sereine.
Moins
vraiment.
À fleur de peau. Est-ce que t'as eu des retours d'expérience dans tout ce que t'as pu lire ou entendre, ou par exemple, par rapport aux naturopathes qui te suivent, est-ce que c'est ce côté un peu zen, ça se ressent chez tout le monde ou chez la majeure partie des personnes?
Alors, pas chez tout le monde. Ça se ressent, en fait, le côté bien-être général, ça se ressent peu importe la durée du jeûne.
D'accord.
Mais je crois que plus le jeûne est long et plus l'effet est probant.
D'accord.
Parce qu'on a le temps, en fait, ce que je te disais tout à l'heure, de s'habituer à l'odorat exacerbé, de s'habituer à observer, tu vois, avec conscience, les choses qui se passent. Un truc tout bête, on mange souvent par automatisme. Et alors, je ne le fais pas à chaque fois, mais au moins une fois par jour, quand je mange, j'ai conscience de ce que je mange. J'ai conscience du goût dans ma bouche, j'ai conscience des aliments que j'ingurgite, et j'essaye de mâcher plus longtemps, justement, pour garder cet état de conscience. Je pense que ça, tous les jeûneurs doivent l'avoir. Et puis, pour garder cet état-là, moi, en tout cas, j'ai envie de... Là, j'ai prévu de refaire un jeûne de 4 jours au mois d'octobre.
D'accord. Donc, c'était ma prochaine question, si tu avais prévu de revivre cette expérience-là.
Alors, cette expérience-là, sur 10 jours, je pense, pour en avoir parlé avec Steph, renouveler l'expérience l'année prochaine.
D'accord.
En fait, comme une espèce de décrassage annuel, voilà, c'est faire un reset, que les douleurs soient revenues ou pas.
Ou pas.
Enfin, vraiment, j'ai aimé cette... C'est paradoxal parce que vraiment, j'étais dans un état lamentable. Enfin, faut être clair avec ça, quoi. Vraiment mal. Mal. En plus, c'est pénible de se lever, d'avoir des palpitations, d'être étourdi à chaque fois qu'on
d'être
se lève
fatiguée.
Un peu, d'être crevé, de pas réussir à prendre une douche correctement ou à boire un bol de bouillon normalement. Mais malgré tout, j'en tire tellement de bénéfices, enfin, sur la globalité, sans
après
parler
coup,
que des douleurs.
Fait. Ouais.
Que j'ai vraiment envie de renouveler ça. Steph est dans le même état d'esprit que moi, donc on se dit qu'on le refera. Et là, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu penses... Alors moi, attention, je ne suis pas du tout... Enfin, médicalement parlant, je suis nulle. Hein. Donc, est-ce que tu penses que je pourrais le faire? Moi, je serais incapable de faire ce que tu as fait. En fait, je pense que tout le monde est capable de
bien
le
sûr.
Faire. Il suffit juste d'avoir une motivation qui nous tienne. Parce qu'il est clair que si on n'a pas une vraie motivation et si on n'est pas dans un contexte favorable... Moi, le contexte, il était favorable parce que j'ai su m'écouter. J'ai su dire, bah non, je vais pas payer 3000 balles pour me retrouver avec des personnes que je connais pas, que j'ai pas forcément envie de rencontrer, et qu'on m'oblige à aller marcher pendant 3 km alors que je suis incapable de faire 100 mètres. Enfin, tu vois,
ouais,
il y a aussi ça. Je pense qu'il faut... Enfin, c'est quand même très personnel. Il y a des gens qui ont besoin d'être encadrés. Moi, je pense que j'avais besoin d'être encadrée, mais comme ça s'est fait là, c'était parfait. En plus, médicalement, enfin, je sais que Steph, elle avait fait des prises de sang avant. Elle en a fait une pendant et elle en a fait une à son retour. Ça prouve bien qu'il n'y a pas de soucis.
Tout va bien.
Tout va bien.
Tout est okay
en fait,
sur
on n'a pas de carence, on n'a pas de difficultés particulières.
Oui, parce que l'organisme, il a pris le relais naturellement.
Bien sûr, il sait ce qui est bon pour lui et on ne parle pas de famine. On n'est pas des mois
bien
et des
sûr.
Mois sans arrêter de manger en n'ayant pas de réserve. En fait, notre organisme, il va piocher dans nos réserves justement pour pouvoir s'auto-nourrir et se maintenir en forme. Alors, toute relativité sur le mot forme, comme j'ai expliqué. Mais donc, je me dis, voilà, là, j'ai une amie qui veut tenter le truc, donc je lui ai dit de faire une journée de jeûne par semaine jusqu'au mois d'octobre. Comme ça, au mois d'octobre, moi, ça va me permettre de refaire 3-4 jours pour tu vois, continuer en fait sur la lancée. Je fais toujours du jeûne intermittent tous les jours.
D'accord, donc toujours le matin, pas de petit déjeuner.
Pas de petit déjeuner le matin. Mon mari a pris aussi l'habitude de le faire depuis que je suis rentrée. Alors ce qui est très rigolo, c'est qu'avant que je parte, il y croyait pas du tout. Lui, il s'est dit, bon, bah, c'est bon, elle est dans son délire.
Elle va tester, elle sera contente.
Voilà, au moins, elle aura testé le truc. Dans tous les cas, ça lui fera du bien parce qu'elle va passer effectivement 10 jours loin de la famille, pour des contraintes habituelles, etc. Mais moi, j'y crois pas. Et en fait, quand je lui ai dit, j'ai plus mal, il m'a dit, mais c'est pas possible. Et aujourd'hui encore, ça fait un mois, c'est mon premier fan à dire, mais c'est miraculeux. Lui, il emploie le terme miracle. Enfin, pour lui, c'est impressionnant. Donc, il s'est mis aussi à faire du jeûne intermittent. Il s'est rendu compte que finalement, le petit-déj du matin, il n'en avait pas besoin. D'accord. C'était surtout une habitude. Donc, ça fait un mois qu'il le tient. Et donc, je continue le jeûne intermittent et je continue à faire 24 heures de jeûne une fois par semaine.
D'accord. C'est à jour fixe ou
non.
C'est en fonction de...
C'est en fonction de l'emploi du temps, de ce qui est faisable, de mon organisation. Tu vois, par exemple, samedi soir, on était invités, on a fait un gros truc, j'ai mangé plus que de raison. Et ben, en fait, dimanche, je ne vais pas manger.
D'accord. T'as remangé que le dimanche soir.
Ouais.
D'accord.
Donc voilà. Mais c'est parce que dans l'organisation globale, ça se fait comme ça. Ouais. Là, cette semaine, les enfants sont pas là le midi, sont au centre aéré. Je vais certainement faire une journée jeûne parce que bah, du coup, je vais bosser pendant midi. Et donc, je vais pas me poser. Et puis voilà, ma journée, elle va être vite faite. D'accord. En fait, on se rend compte que c'est facile. C'est juste une habitude à prendre. Mmh. Et comme toutes les habitudes, au début, il faut se faire un peu violence. Et une fois que c'est parti, ben voilà, la machine, elle roule toute seule.
Ouais, bien sûr. Donc, oui. Et puis, à partir du moment où tu y trouves un sens aussi,
c'est ça.
Que c'est pas une contrainte, que pour toi, ça devient presque une évidence, en fait, de le faire. Mmh. Et du coup, c'est naturel, ça fait partie de l'organisation, c'est calé, ça roule.
C'est ça.
Il n'y a presque pas de question à se poser, c'est normal, en fait.
Et puis, alors, moi, j'ai une vraie motivation. Hein. J'ai tellement peur que ça revienne.
Bien sûr.
Mais vraiment tellement peur.
Est-ce que ça veut dire que, du coup, tu conseilles ce type de jeûne aux personnes qui ont la maladie de Lyme ou n'importe quelle autre maladie ou de
en
manière
fait,
générale ?
En fait, je conseille à ceux qui ont envie de tenter l'aventure de le faire.
D'accord.
Parce que moi, je trouve que c'est une aventure extraordinaire, que tout le monde n'est pas prêt à le faire, hein, soit pour en discuter.
Et c'est pas une obligation de le faire.
Non.
Hein, c'est pas parce qu'il y a un peu un effet de mode.
Si je rencontrais quelqu'un dans le même cas que ce que j'étais moi il y a un an et demi et qui me disait, voilà, j'ai des douleurs articulaires, etc., je commencerais déjà par poser la question, savoir où cette personne-là en est de son alimentation. Qu'est-ce qu'elle a mis en place aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Tu vois, moi, j'avais arrêté le gluten parce que la naturopathe m'avait dit, le gluten, c'est inflammatoire. Les douleurs articulaires que tu as, ça peut être lié à ça. Et la preuve, c'est qu'avec les anti-inflammatoires, tu vas mieux. Donc, on évite tout ce qui est tout ce qui est inflammatoire. Et puis, je prenais des anti-inflammatoires naturels, tu vois, du curcuma, des choses...
En matière d'alimentation, tout ce qui est inflammatoire, ça peut peut-être intéresser déjà certaines personnes, c'est quoi ? C'est les laits...
Tout ce qui est le laitage, le lait de vache, le curcuma, la viande rouge. Mais bon, la viande, ça fait bondir pas mal de monde, mais c'est pas très très bon. Alors, moi, j'ai aussi beaucoup vu de vidéos d'une grande naturopathe qui s'appelle Irène Grosjean. Alors, moi, je suis pas une extrémiste, hein, donc il y a à prendre et à laisser. Elle est crudivore, donc autant pour moi, c'est trop. Dès l'instant où on part dans les extrêmes, je peux plus.
Tout est une question d'équilibre, en fait.
C'est ça. Mmh. Mais elle a des... Elle a des notions et des retours qui sont plutôt très bons. Et elle a des choses qui ne sont pas déconnantes du tout. Donc, en fait, je dirais à moi-même, il y a un an et demi, renseigne-toi peut-être un petit peu plus. Parce que peut-être que la démarche du jeûne, elle serait arrivée avant. Ou en tout cas, j'aurais lu plus de choses, je me serais plus documentée. Parce que Steph était beaucoup plus documentée que moi sur le sujet, pour le coup. Et je pense que, voilà, si on a une motivation, si on se dit que ça peut nous faire du bien, il faut tenter l'aventure.
Tenter l'expérience.
Mais pas n'importe comment. J'ai rencontré des gens qui avaient tenté l'expérience sur 5 jours, en continuant leurs activités quotidiennes, à la maison, en faisant manger leurs enfants. C'est juste pas gérable. En général, ça se solde par un échec. La même façon de se retrouver avec une liste d'objectifs, c'est-à-dire je vais jeûner parce que je veux perdre 5 kilos, je veux arrêter de fumer, je veux ci, je veux ça, je veux machin, faut oublier. Parce que ça, c'est pas des vraies raisons.
Oui,
alors, à la limite, je jeûne pour essayer de voir si j'arrive à arrêter de fumer. Une seule.
Oui,
c'est pas la peine de s'en coller 10 sur le dos parce que ça va pas fonctionner. Mmh. Et puis en plus, le corps, il a une façon de fonctionner qui n'est pas notre réflexion cérébrale.
Mmh.
C'est-à-dire que, par exemple, Steph, elle y est allée, donc elle est allée jeûner pour l'hyperacousie, les acouphènes. C'est pas guéri. Par contre, ça l'a soulagée de plein d'autres choses.
D'accord.
Mais certainement parce que c'était plus important de guérir ou de soigner ces choses-là avant de s'attaquer aux acouphènes.
Bien sûr.
Mais ça, c'est une vraie démarche aussi de faut l'ingérer.
Oui, il faut faire confiance à son corps, il faut lâcher prise sur ce que le mental peut dire.
Ouais.
Hein, c'est vrai que finalement, toi, tu y allais en te disant, je vais vivre l'expérience et je vais voir ce que ça donne, voir ce que je vais y gagner. Et du coup, bon, c'est le pompon parce que finalement, tu y as gagné sur tes douleurs et c'est génial. Mais dans tous les cas, de toute façon, tu allais gagner puisque tu allais gagner le fait d'avoir vécu une expérience.
C'est ça. Et puis, c'était le fait d'être à zéro sur l'échelle de 0 à 10, c'était inespéré. Enfin, moi, je m'attendais, si j'avais été au niveau des antibiotiques, déjà, j'aurais été contente parce que je me serais dit, je ne suis plus obligée de prendre des antibiotiques pour être à peu près dans cet état-là.
Oui, bien sûr.
Donc non, moi c'était, enfin pour le coup c'est tout bénef. Moi j'ai pas eu beaucoup d'échanges avec des gens qui sont dans mon cas, et puis il y a des gens qui sont malades de Lyme, qui sont fort médicalisés, et je me vois pas, en fait je me sens pas suffisamment crédible pour leur dire, enfin le kiné que j'ai croisé dans la salle d'attente, si je le revoyais, je lui donnerais mon retour d'expérience, mais je ne me sentirais pas de lui dire « vous devriez essayer ».
Non, non, parce que c'est... Et puis chacun réagit différemment. Donc, c'est ton expérience à toi. Et ça ne veut pas forcément dire que ça va se reproduire de la même façon pour quelqu'un d'autre.
Non.
Mais pour autant, c'est une expérience qui est vraie,
oui,
qui existe. Donc, il faut s'en inspirer malgré tout.
Et puis, qui n'est pas psychologique, parce que j'ai aussi entendu dire, pas plus tard que la semaine dernière, moi, je pense que c'est ton mental qui fait ça.
Ouais. Alors, quand bien même ce serait le mental. Pour le coup, de toute façon, les douleurs sont à zéro. Donc,
oui, et puis, les douleurs, elles étaient quand même très physiques. Le mental, si ça avait vraiment été ça, je pense que j'aurais pu prendre n'importe quel médicament, ça aurait fonctionné. Enfin,
oui, oui,
à mon sens.
Oui.
Et en même temps, j'étais tellement pas persuadée que ça allait faire de l'effet que je vois pas comment j'aurais pu me guérir juste en imaginant que j'allais aller mieux. Oui, parce que c'était pas ce que j'imaginais finalement.
Oui.
Puisque j'y allais vraiment en me disant, on verra bien quoi.
Oui. Tu parlais tout à l'heure de te documenter. Est-ce que tu as des sources d'inspiration à donner, des livres, des documentaires, des choses que tu as vues, que tu as lues, qui pourraient intéresser les personnes qui ont envie de creuser un peu plus le sujet?
Alors sur le...
Que ce soit sur Lyme ou sur le jeûne.
Sur la maladie de Lyme, il y a un livre qui est sorti très récemment, je ne me souviens plus de l'auteur, c'est une dame, et ça a été préfacé par le professeur Christian Perron, justement.
D'accord.
Qui s'appelle « J'ai guéri de la maladie de Lyme ».
D'accord.
Moi, j'ai lu son livre qui s'appelle « La vérité sur la maladie de Lyme », donc le professeur Christian Perron.
D'accord.
Ça, je le conseille vraiment.
Je mettrai les notes, les références dans les notes, ouais, de l'épisode.
Et puis sur le jeûne, il y a le documentaire qui s'appelle « Le jeûne, nouvelle thérapie ».
D'accord.
Qui est fait par un journaliste dont j'ai oublié le nom, et qui lui-même a écrit un livre derrière. C'est celui que j'ai lu aussi quand j'étais du côté de Montpellier.
Okay.
Qui, du coup, forcément, le livre est plus détaillé, où il explique qu'en fait, le jeûne, c'est pas nouveau. Parce qu'il y avait des médecins, notamment aux États-Unis, dans les années 1810... Mmh. Qui avait fait des expériences notamment sur des jeunes de 20 ou des jeunes de 40 jours, entourés quand même de tous les sceptiques, que ce soit la presse, les confrères médecins, etc., pour se rendre compte que non, ils ne mangeaient pas en cachette, et que oui, les douleurs cardiaques, par exemple, il avait des problèmes cardiaques étaient partis, les problèmes pulmonaires étaient partis, enfin, c'est pas nouveau, tu vois, on se dit pas... Ah ben aujourd'hui c'est la grande mode, tout le monde va jeûner.
Sûr.
Enfin,
oui.
Si, pour les chrétiens, le Christ, il a jeûné 40 jours.
Mm.
J'ai du mal à imaginer qu'il ait pu faire, enfin, vu l'état dans lequel moi j'étais, qu'il ait pu marcher pendant des kilomètres et des kilomètres pendant 40 jours, mais
pourquoi pas.
Maintenant, moi j'aurais pas été capable de le faire, mais c'est toujours pareil, entre quelqu'un qui a 20 kilos de surpoids et quelqu'un qui a pas un pet de graisse du tout, on va pas jeûner le même temps.
Mm-hmm.
Enfin, moi clairement, je pense que les 10 jours, j'étais arrivée au bout de mes réserves. Je suis rentrée, j'étais creusée, j'étais épuisée.
À ce moment-là.
Ouais. Et il est évident que je ne pourrais pas jeûner 40 jours. Je pense que je mourrais de famine. Enfin, mon corps, il... Le but, et c'est ce que la naturo... C'est ça que j'ai bien aimé aussi, être encadrée par des naturopathes, c'est qu'ils ont une approche plus douce sur notre rapport à notre corps. Il n'y a pas du tout d'allopathie. Hein. Et c'est vraiment se dire, si tu sens que c'est plus le moment, enfin que c'est, ça va plus, tu arrêtes. Et c'est pas la peine de se forcer, parce que ça va être encore pire. Et en plus... Il faut pas aller piocher dans les muscles, parce qu'une fois que tu n'as plus de réserve, ça sert à rien d'aller, d'aller creuser tes muscles.
Ça peut devenir grave, en fait.
Bien sûr.
Ouais.
Et c'est aussi pour ça que c'est bien d'être encadré, et je pense que c'est bien d'être, de pas avoir de pète au casque, entre guillemets, quand on fait ça, quoi. Parce que, parce que, parce qu'on, on frôle, on joue quand même à la limite des troubles alimentaires, hein, malgré tout. Mmh. Donc quelqu'un qui avait déjà enchaîné des tonnes de régimes parce que surpoids, parce que si, parce que ça, il faut quand même faire attention. Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis, ni d'anorexie, ni de boulimie. Sauf que, en termes de bénéfices, je suis quand même quelqu'un de très stressé, hein, on l'a dit tout à l'heure. Quand je travaillais sur des dossiers difficiles ou qu'il m'arrivait un truc, avant de jeûner, il fallait que je grignote. Mais quand je te dis je grignote, c'était chips, dragibus, mon péché mignon, c'était les Skittles, mais j'étais capable d'en commander des kilos.
D'accord.
Et de m'enfiler des sachets de 250 grammes de Skittles à moi toute seule pendant que je faisais
pendant
un truc.
Ton dossier.
Voilà, mais parce que j'avais besoin, entre guillemets, de besoin de me remplir. Alors déjà, il y a le sucre, et puis, mais ça marchait pareil avec des chips, hein. C'est le fait de piocher des choses. C'est même pas de manger une part de gâteau, parce que ça, c'était pas suffisant, en fait. C'est de mettre des choses à l'intérieur de mon corps, petit peu par petit peu.
C'est ce que tu viens de dire, c'est se remplir, en fait. Hein.
C'est ça. Et depuis que je suis rentrée du jeûne, non seulement je n'ai plus cette envie-là, j'ai toujours des soucis, je suis toujours stressée, hein, mais je ne l'ai plus fait. J'ai même pas eu envie d'aller piocher dans les bonbons des enfants. Pour dire à quel point, et là, pour le coup, je ne me force pas. Je me dis pas, non, Angélique, c'est pas bien. Parce que d'habitude, quand je me disais, Angélique, c'est pas bien, 10 minutes après, j'allais quand même chercher mon paquet de bonbons et je le mangeais. Et là, je le fais plus.
D'accord.
Donc, il y a aussi un vrai bénéfice, je pense, sur ce que je te disais en termes de... Oui. Qu'est-ce que je mets dans mon corps qui est bon, qui n'est pas bon pour lui.
Tu t'es réapproprié ta relation à la nourriture, non pas qu'elle était mauvaise avant, mais il y a une relation à la nourriture qui n'est plus la même aujourd'hui.
C'est ça.
Et qui a repris ses fonctions initiales qui est d'apporter ce dont l'organisme a besoin pour vivre, ni plus ni moins, en fait.
C'est ça.
Finalement. Ok. Bon, alors hormis le jeûne en octobre de 4 jours, peut-être un prochain de 10 jours l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer d'intéressant en termes d'actualité en ce qui te concerne là dans les mois ou années à venir ? Est-ce que tu as des projets
Ah oui, oui, des projets, j'en ai plein. Je lance mon activité Feng Shui, parce que j'ai donc eu mon... En fait, la maladie de Lyme aura au moins eu le bénéfice de m'orienter vers des activités complémentaires et différentes de mon job.
Qu'est-ce que tu fais
Et donc, j'ai passé mes examens Feng Shui au mois de juin, que j'ai eu. Au mois de juin, n'importe quoi. Au mois de février de cette année que j'ai eu. Et puis, je traînais un peu des pieds, donc j'ai quand même quelques dossiers Feng Shui, mais pour des connaissances, des amis, etc. Donc là, je lance l'activité pour de bon.
D'accord.
Plus, j'ai eu des résultats, notamment sur des enfants, sur le sommeil ou la maladie qui était probant. Donc, je suis assez contente de ça et j'ai envie d'avancer. J'ai un projet de livre.
D'accord.
Alors, bon, maintenant que j'en parle à tout le monde, je vais être obligée de le faire. De
vrai. C'est trop tard, là, maintenant. Tu as été enregistrée, donc tu es obligée de le publier.
Non, j'ai commencé... en fait, avec le journal de bord que j'ai tenu pour mes proches, je me suis dit, mais pourquoi pas... mixer tout ça, parce que donc il y a ce que j'avais écrit à mes proches chaque jour, ce que je me voyais pas envoyer des SMS à tout le monde, redire la même chose, parce que c'était vraiment une coupure. J'avais aussi plus ou moins coupé avec le téléphone, le Facebook, tout le bazar. Mais le fait de dire, voilà, aujourd'hui j'en suis là, et j'ai fait ça tous les jours. Donc des fois il y a des gens qui répondaient, il n'y avait pas d'obligation, il y en a qui répondaient pas du tout. Mais en fait, du coup, j'ai mixé ça avec les échanges avec mes naturopathes préférés, Sixtine et Angélique, plus ce que moi je notais, parce que le matin quand je me levais, je notais, notamment en termes de poids, où j'en étais, parce qu'au début, je me suis quand même inquiétée. Enfin, la semaine de descente alimentaire, sur les 9 kilos globales que j'ai perdu, j'en avais déjà perdu 3,5 cette
D'accord.
première semaine.
Okay.
Donc, j'avais pas commencé d'arrêter de manger, que j'avais déjà perdu du poids. Et comme ça faisait partie des craintes, notamment que pouvait avoir ma sœur ou d'autres personnes autour de moi, moi j'y allais pas pour perdre du poids, mais du coup ça avait tendance presque à me stresser, à me dire oulala, mais moi je
Finalement.
N'y avais pas imaginé que j'allais perdre du poids. Donc en fait tout ça, le but c'est de le mixer, d'essayer de voir comment je peux le mettre en forme avec le rapport que j'ai au sport, le rapport que j'avais à la nourriture, le rapport que je peux avoir à mon corps, ou que j'avais à mon corps et que j'ai aujourd'hui, le rapport avec la maladie justement, et puis ce jeûne et le après. Et aujourd'hui, effectivement, faire un retour d'expérience sur j'ai fait ça, enfin j'étais là, j'ai fait ça, j'en suis là. Prenez si vous avez besoin de prendre.
Prenez ce que vous avez envie de prendre.
Voilà.
En tout cas, si ça peut être une source d'inspiration, pourquoi pas.
C'est ça.
Ok. Super.
Donc je me dis, ça intéressera peut-être quelqu'un.
En tout cas, moi, ça va m'intéresser. Donc je te commande tout de suite un exemplaire si tu veux bien.
Et tu connais déjà, enfin en tout cas même les auditeurs, vous connaissez déjà une grande partie, mais ce sera peut-être plus étoffé.
Ouais, ok, ça marche. Bon, bah, écoute, moi je vais suivre ça de très près, mais c'est avec hâte que je vais lire quand il va sortir ton livre. Pour les auditeurs qui auraient envie éventuellement de te contacter ou de te poser des questions suite à la discussion qu'on vient d'avoir, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut te contacter, te trouver facilement ? Comment on peut le faire ?
Alors oui, c'est possible de me contacter. Et non, je ne suis pas devenue une ermite qui ne veut plus parler à personne. Ça a duré que 10 jours.
Okay.
Et au contraire, moi, j'aime beaucoup le partage d'expérience. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui me connaissent, mais qui sont venus vers moi par rapport à ces sujets-là. Et donc on peut me contacter sur donc j'ai mon site internet du travail qui est ProOptim, ProOptim.
D'accord.
Dessus il y a mon numéro de portable, il y a mon adresse mail, je suis facilement accessible. Et puis sinon ils viennent vers toi et tu pourras
mais je vais mettre aussi dans les commentaires de l'épisode toutes les références directement pour aller sur le site et Bah écoute, merci beaucoup Angélique pour ce partage. Et puis écoute, fais-nous signe dès que le livre est prêt. Mais en tout cas, moi j'ai hâte.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Rebonjour à tous. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre. Et comme d'habitude, je reviens dans cette deuxième partie d'épisode. Et étant donné que l'échange avec Angélique a déjà été très riche, je vais faire très court et simplement vous apporter ou vous confirmer quelques sources d'inspiration. Tout d'abord, concernant la maladie de Lyme, je vous rappelle les deux livres dont Angélique nous a parlé en fin d'interview. Le premier, « J'ai surmonté la maladie de Lyme », roman écrit par Laura Arnal, qui est préfacé par le professeur Christian Perron aux éditions Odile Jacob. Et ensuite, le livre du professeur Christian Perron lui-même, qui s'appelle « La vérité sur la maladie de Lyme » aux éditions Odile Jacob également. Elle nous a proposé aussi un film documentaire sur le thème du jeûne, qui s'appelle « Le jeûne, une nouvelle thérapie », qui est un documentaire Arte, que vous pouvez retrouver facilement sur le net, qui a été réalisé par le journaliste Thierry Delestrade, qui a également écrit un livre qui porte le même nom. Pour ma part, voici quelques recommandations que je souhaitais vous faire. Je vous invite à écouter le podcast Métamorphose, animé par Anne Guéquière, qui est aussi la fondatrice du magazine Féminin Bio. Elle a consacré un épisode à la maladie de Lyme, qui est l'épisode numéro 9, dans lequel elle nous partage sa rencontre avec un médecin spécialisé dans cette maladie, qui est le docteur Béatrice Milbert. Je vous recommande également l'épisode numéro 11 de ce même podcast, dont le thème est « Comment être en excellente santé grâce au jeûne ?», sujet qu'elle aborde en compagnie de Romain Vicente, qui est praticien de santé, naturopathe et fondateur de La Pensée Sauvage. La Pensée Sauvage, c'est une structure qui se trouve en Rhône-Alpes pour initier et pratiquer la détox et le jeûne de manière encadrée avec une équipe de professionnels, des naturopathes, ostéopathes, professeurs de yoga, etc. et au travers de programmes adaptés et sur mesure. Évidemment, il existe plusieurs lieux en France de ce type si vous souhaitez faire un jeûne de manière encadrée et il est primordial de trouver l'environnement qui vous convient. Et dans tous les cas, avant de vous lancer dans ce type de démarche, je vous recommande vivement de consulter votre médecin et ou un naturopathe. Enfin, de manière plus générale, si vous vous intéressez à des questions de santé et d'alimentation, sans forcément parler de jeûne, toujours dans ce même podcast Métamorphose, je vous recommande l'épisode numéro 3, notamment, qui s'intitule « Se soigner grâce à l'alimentation ». Il y a en réalité plusieurs épisodes sur le sujet, donc je vous invite à y regarder de plus près et à choisir ce qui vous intéresse. Et enfin, un dernier livre à vous conseiller qui s'appelle « Mon coach Ayurveda » aux éditions Erol. Je rappelle que l'Ayurveda est la médecine traditionnelle indienne qui permet d'atteindre un réel équilibre entre le corps, le mental et l'esprit parce qu'elle prend en compte l'être humain dans sa globalité. Ce livre a été écrit par Samuel Ganes, qui est thérapeute ayurvédique et professeur de yoga, et c'est un véritable programme sur mesure pour prendre soin de sa santé physique, sa santé émotionnelle et sa santé spirituelle. Voilà pour ce 18e épisode, j'espère qu'il aura été inspirant pour vous. Si vous souhaitez me contacter, je vous rappelle que vous pouvez le faire via les réseaux sociaux. Il y a une page Facebook CB Coach, un compte Instagram CBCoach51 et il y a aussi tout simplement le site internet www.cbcoach.fr avec l'ensemble de mes coordonnées. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.